propres idées. J'ajoute que cette brochure est essentiellement vendable, y compris aux jeunes qui ne sont pas membres de la JS, mais qui veulent essayer de voir clair dans ce problème et qui veulent comprendre qu'est-ce que nous voulons dire au juste avec cette histoire du gouvernement des organisations ouvrières unies dont nous les fatiguons et qui ne comprennent pas très bien pourquoi nous ne nous contentons pas de dire vive la révolution prolétarienne, vive la dictature du prolétariat. Ou alors au contraire d'ailleurs, pourquoi il arrive que certains camarades en viennent à dire vive le gouvernement ouvrier en oubliant que nous sommes pour la dictature du prolétariat et que le gouvernement ouvrier n'a de sens pour nous que comme un instrument stratégique vers la dictature du prolétariat et non pas comme une fin en soi. Pour tous ces jeunes, cette brochure est à mon avis indispensable. Elle l'est d'autre part pour les militants de la JS, si vous voulez qu'il y en ait d'autres. Alors donc j'insiste pour que ce soir soit pris un très grand nombre de ces brochures. Je signale qu'il y a pour tout cercle qui en aura vendu au moins 50 en prime un abonnement à la vérité. Vous voyez qu'à Grenoble, ils en ont déjà gagné un et ils sont en bonne voie d'en gagner un second. Bien entendu, le cercle n'est pas obligé d'en prendre d'un seul coup 50 ou plus. Il peut totaliser ce qu'il fait. Je demande donc que vous fassiez extrêmement attention à cela. Il ne s'agit pas seulement de la diffuser, il s'agit de la diffuser vite. La diffuser vite parce que si on veut à la fois rentrer d'abord dans les frais et créer un fonds de départ qui permette ensuite d'en sortir deux, par exemple dans les 6 semaines ou 2 mois qui suivent, disons d'ici la fin de mars, une qui devrait être pas loin d'être prête au début de mars et l'autre à la fin, par exemple, ben il est évident que ça c'est entièrement entre vos mains. C'est entièrement entre vos mains, après tout. En dernier ressort, la compréhension du rôle de l'éducation dans la construction de l'organisation révolutionnaire de la jeunesse, qui n'est pas une tâche à part, séparée du reste, mais qui ne peut pas être non plus une formation qui se contenterait d'expliquer aux camarades quelles sont leurs tâches de la semaine, parce que ça n'est pas une formation marxiste, et ça ne pourrait pas l'être. Au contraire, il faudrait certainement des organismes que la JS aura un jour ou l'autre, et peut-être assez vite, telle qu'une commission d'agite propre, qui utilise les éléments extrêmement riches de l'actualité pour les projeter dans les cercles. Il est évident qu'entre les impôts de M. Chaman-Delmas, le procès de M. Henri et l'étonnante discrétion d'ailleurs de la presse à propos de ce procès, dans le Figaro de ce matin, je n'ai peut-être pas très bien cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Dans l'Aurore, je l'ai trouvé, mais alors que l'Aurore avait mené particulièrement campagne là-dessus, toute cette affaire est minimisée. Dans l'Humanité, c'est vraiment rapporté d'une manière extraordinaire, étant donné que vraiment, finalement, ce pauvre type, il n'a pas fait grand-chose. En tout cas, il s'agit avant tout de ne pas mettre en cause le régime, au moment même où, par ailleurs, on dialogue avec les chrétiens à la semaine de la pensée marxiste. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire cet exposé-là. Il est certain que ces éléments sont extrêmement riches. Il est certain que dans la formation, ces éléments d'actualité prennent leur place, mais qu'on ne peut pas demander, que ce serait faux, théoriquement, du point de vue marxiste, de demander que la formation soit simplement chaque semaine la reprise des éléments de l'actualité commentés pour que vous l'utilisiez dans l'agitation. Ça, c'est autre chose, c'est le travail de l'agitation propagande. C'est au stade actuel un travail qui peut se faire dans chaque cercle et qui doit s'y faire. Je conçois mal qu'un responsable de cercle qui fait un rapport ne se serve pas de ces choses-là dans son rapport. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire répéter une série de formules stéréotypées qu'il aura lues dans une circulaire centrale. C'est pas comme ça qu'il doit concevoir son travail. Seulement, précisément, pour qu'il puisse interpréter ces éléments d'actualité et les réintégrer dans le cadre de notre politique, il lui faut une formation politique marxiste. En effet, sinon, ces éléments en eux-mêmes sont indifférents. On peut les utiliser dans bien des choses. On peut dire que c'est un gouvernement de voleurs, donc il nous faut un gouvernement d'honnêtes gens. Il nous faut un gouvernement d'honnêtes gens, mais pas un gouvernement ouvrier anticapitaliste. Parce qu'après tout, il n'a pas été écrit quelque part que tout bourgeois était malhonnête et volait. Et c'est même pas vrai, en plus. C'est même pas vrai, en plus. Le régime bourgeois s'est construit avec des gens qui, dans le cadre même de l'exploitation capitaliste qui constitue en soi un vol, respectaient parfaitement l'honnêteté, la loi et tout ce qu'on veut, et ne trafiquaient pas. On peut même dire autre chose. Dans le régime bourgeois, les scandales ont été quelque chose de permanent, mais le fait qu'ils sortent publiquement suppose que les différentes fractions de la bourgeoisie soient en conflit entre elles, parce que c'est seulement comme ça que nous le savons. Sinon, si les différentes fractions de la bourgeoisie et du personnel dirigeant étaient bien d'accord, nous n'en saurions rien du tout, parce qu'ils s'entendraient parfaitement pour qu'on ne voit rien. C'est-à-dire que la signification des scandales qu'on voit exploser aujourd'hui est très exactement celle de l'affaire Stavisky en 1934, c'est-à-dire d'une crise du régime, ouvrant à la classe ouvrière la possibilité d'une brèche où elle peut s'engouffrer, parce qu'elle exprime le fait que l'une des deux conditions où Lénine voyait une situation révolutionnaire, ceux d'en haut ne peuvent plus. Ceux d'en haut ne peuvent plus, le deuxième étant que ceux d'en bas ne veulent plus. Après cela, nous avons une situation révolutionnaire objective au sens de Lénine, ce qui ne signifie pas encore du tout la victoire de la révolution, parce que même si ceux d'en haut ne peuvent plus et si ceux d'en bas ne veulent plus, faut-il encore que ceux d'en bas, à savoir la classe ouvrière, aient entre les mains une perspective politique et un programme qui lui permettent de vaincre. Il ne suffit pas qu'ils ne veulent plus. D'ailleurs, c'est tout ce qui caractérise la situation en France actuellement, et le fait qu'il n'y ait pas de grands mouvements de lutte de masse, de grève par exemple, ça ne tient pas au fait que la classe ouvrière serait à un bas niveau politique, ça tient au contraire au fait qu'elle est à un niveau très élevé, c'est-à-dire qu'elle a fait le bilan des dernières grèves qui toutes achoppent devant la question suivante, il faut une perspective politique de gouvernement et la classe ouvrière n'en a pas. Et c'est pourquoi elle ne se lance pas actuellement dans un grand mouvement, non pas parce qu'elle ne veut pas se battre comme en Angleterre ou en Allemagne, mais au contraire, parce qu'elle est arrivée à un niveau plus élevé encore, d'où l'importance que nous avons à faire. Bon, mais alors, faire des commentaires de genre, le réinsérer dans l'activité quotidienne n'est possible que si on a une formation politique de base suffisante pour résister à la pression de ce qu'on lit dans les journaux qui commentent à leur manière les événements dont je parlais. Après tout, y compris le fait que Chaban-Delmas ne paye pas d'impôts et qu'il ne soit pas le seul, ben ça ne règle pas la question de savoir qu'est-ce que la classe ouvrière doit faire aujourd'hui. Ce sont des pourris, mais ça, les travailleurs, ils savent bien, les patrons sont des exploiteurs, qui payent ou qui ne payent pas d'impôts, ça n'y change finalement pas grand-chose. Cette affaire est un instrument d'agitation puissant contre le régime, précisément au moment où le 15 février arrive et où les bons citoyens français vont payer leur tiers provisionnel. Il faut reconnaître que le canard enchaîné a travaillé de façon intelligente de son point de vue, petit bourgeois hostile au régime existant et favorable à un nouveau front populaire. C'est incontestable, c'est du boulot bien fait. Mais précisément, si nous ne sommes pas capables d'avoir notre analyse politique, de comprendre le jeu des classes en lutte et la lutte entre ces classes, de comprendre la lutte que mènent les appareils, l'appareil stalinien en particulier, pour ce qui s'appelle maintenant l'Union populaire, et pourquoi l'appareil stalinien s'efforce de ne pas trop ébranler le régime tout en préparant la relève pour sauver la bourgeoisie. Si nous ne comprenons pas tout cela, nous ne pourrons pas utiliser ces éléments plus que ne le font les gauchistes, plus que ne le fait lutte ouvrière, où j'ai vu tout à l'heure à une bouche de métro un brave jeune homme qui vendait lutte ouvrière en criant « personne ne paye d'impôts dans la bourgeoisie », etc. Bon, ce qui est d'ailleurs exagéré, mais la question n'est pas là. Mais il est évident que ça peut surtout plus susciter, faire serrer les poings des travailleurs et des jeunes, leur faire atteindre un degré d'indignation encore plus grand si c'était possible, mais après tout, ils savaient déjà que c'était des pourris, ils le savaient. Mais pas du tout leur dire quoi faire, et ça, c'est évidemment pas dans lutte ouvrière qu'ils le trouveront. Lutte ouvrière n'est pas cette espèce de canard enchaîné du pauvre, n'est pas fait pour définir des solutions et des perspectives. Si vous lisez lutte ouvrière, moi, ça m'a frappé. Qu'est-ce que vous y trouvez? Vous y trouvez, c'est honteux, c'est scandaleux, ça peut pas durer, à toutes les pages. C'est honteux, c'est scandaleux. C'est scandaleux la manière dont on traite les Portugais ou les Noirs, c'est scandaleux de la manière dont on traite les ouvriers à tel endroit, c'est scandaleux la manière dont les bureaucrates violent la démocratie dans telle usine et dans tel syndicat, c'est ça. Et encore d'autres choses, c'est scandaleux la manière dont on traite, dont on traite les femmes, c'est vraiment honteux, c'est vraiment honteux. C'est vraiment inouï, ça révolte. Non mais lisez-le, c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que j'exagère? Et puis après vous avez tourné les pages, vous dites oui c'est vraiment dégueulasse, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est dégueulasse, au fond, on le savait quand même un peu, hein, entre nous. Quel est le jeune qui ne pense pas que cette société est pourrie? Même s'il ne sait pas qu'à tel endroit, les Noirs dans un bidonville, etc., qu'à tel endroit, il y a des racistes, que Chaban-Delmas ne paye pas d'impôts, très légalement d'ailleurs, mais en fait illégalement, parce qu'il a dissimulé ses revenus de milliardaires de participation à des trusts, etc. Bon, même si ce n'est pas ça, il est révolté contre cette société. Ce qui lui manque avant tout, c'est de savoir quoi faire, ce qui ne veut pas dire que le rôle des militants de la JS n'est pas d'introduire tous ces éléments dans leur agitation. Seulement, encore une fois, sinon pas une formation politique de base, s'ils ne comprennent pas le jeu des classes, le jeu des partis, le jeu des appareils, le rapport entre les masses et leur organisation, le rapport entre l'organisation de classe qu'est le syndicat et sa direction réactionnaire, la nature d'une organisation comme la CFDT, la signification réactionnaire d'un mot d'ordre comme celui de l'autogestion, par exemple, et bien d'autres choses de gens, s'ils ne comprennent pas ça, Ben, il y a deux écueils à éviter. Le premier serait de dire tous ces éléments de l'actualité, ça n'a aucun intérêt, c'est à la surface des événements, donc ça ne nous concerne pas, nous continuons à faire tourner le disque, gouvernement, insurrection ouvrière unie, États-Unis, socialistes d'Europe, etc., en recopiant ce qu'on a lu dans un tract central, parce que comme ça au moins on est sûr de ne pas se tromper, sauf si le tract central s'était trompé lui-même, mais dans ce cas-là on est tranquille, on est couvert, on ne va pas se faire engueuler. Bon. Alors ça, c'est l'écueil inadmissible, parce qu'il n'y a rien qui fasse plus chier les jeunes que d'entendre tourner la mécanique et qu'on leur rabâche aux oreilles tout le temps les mêmes formules, alors qu'ils sentent très bien que celui qui emploie ces formules, s'il en reste au niveau des formules, c'est parce que lui-même n'est pas très sûr de ce qu'elles veulent dire. Il ne faut pas prendre les jeunes pour des cons, ils comprennent parfaitement quand ils sont en face d'eux un camarade qui, avec une autorité magistrale et 100% sûr de tout et qui donne l'impression de tout savoir, ne se contente de répéter les formules générales, c'est qu'il n'est pas tellement sûr de ce que ça veut dire. De toute façon, ça l'emmerde. Et il a raison. Maintenant, d'un autre côté, l'autre écueil qui est peut-être probablement pire encore, c'est de se ravaler au niveau de lutte ouvrière, c'est-à-dire au niveau de l'actualité immédiate et des scandales de l'actualité, sans être capable de nourrir l'agitation et la propagande pour nos objectifs politiques stratégiques des éléments qui se passent chaque jour et que, à ça, incontestablement, tout responsable de cercle qui veut nourrir son rapport d'événements, il n'a qu'à ouvrir les journaux, au besoin à en acheter un de plus, par exception, un ou deux hebdomadaires d'un genre ou d'un autre, il va trouver tout ce qu'il faut. Ça, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans tous les domaines, même si on ne sait pas beaucoup de choses qui seraient encore plus belles, on en sait suffisamment. Seulement, encore une fois, si on n'a pas une formation politique fondamentale, et même élémentaire, alors on se dégrade au niveau de la surface des événements. Et la surface des événements, c'est forcément l'adaptation au régime. Parce que les événements tels qu'ils sont produits dans la grande presse ne nous diront jamais il faut détruire le régime de la propriété privée, des moyens de production, il faut détruire l'État policier, il faut instaurer le pouvoir des conseils. Ça, ils ne nous diront pas ça. Et ils ne peuvent pas le dire. Ils diront au contraire, il faut réformer l'État, il faut des honnêtes gens pour le diriger, il faut qu'il soit contrôlé, il faut que le Parlement ait plus de pouvoir, tout ce que vous voudrez. Mais ils diront... Ils tendront à indiquer des solutions qui se situent dans le cadre du régime existant, parce que ça tient à leur nature. Tout ceci avait pour but de redémontrer ce qui ne devrait pas avoir besoin de l'être, mais ce qu'il faut continuellement redémontrer, c'est-à-dire l'importance de la formation, autrement dit de parler au moins autant pour les camarades qui ne sont pas là ce soir que pour ceux qui sont là, mais dans l'espoir que ceux qui sont là ne sont pas simplement des tampons buvards qui enregistrent, mais peuvent éventuellement transmettre, répéter, dans leur cercle expliquer. Il y a finalement plus de camarades que je ne craignais ce soir, parce que avec le fait qu'on arrive en retard, et de plus en plus, qui n'est pas... Enfin, il vaut encore mieux venir en retard que de ne pas venir du tout, disons, si vous voulez avoir mon point de vue là-dessus. Mais ce qui est certain et d'une importance majeure, pas pour l'école en soi, qui n'est pas une tâche, qui n'est pas une institution en soi, mais pour l'AJS elle-même, pour ses cadres, pour son développement, pour sa construction... En particulier, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, on le verra, jusqu'à présent, il y a très peu de camarades, de jeunes non membres de l'AJS qui ont été amenés à cette école par des militants de l'AJS. Or, moins qu'à la première session. Or, l'expérience avait montré qu'au contraire, l'école pouvait être, et elle l'a été en tout cas en province, sur une échelle importante dans un certain nombre d'endroits, un instrument de recrutement, de développement de l'organisation. Bon, ça, ce sont des problèmes que vous avez à vous poser. Il est important... que l'école ait du monde, non pas une fois de temps en temps, mais que sur 14 séances, il se constitue un noyau régulier de 200 à 250 camarades. C'est important pour la construction de l'AJS, c'est important pour le fonctionnement de ses cercles, c'est important pour l'ensemble de son développement, et elle a besoin de cadres, c'est incontestable. Il ne suffit pas d'être à l'école pour être un cadre, malheureusement, c'est pas si simple, la vie politique, il faut aussi... joindre les deux bouts de la théorie et de la pratique, raccrocher ce qui se fait à l'école à l'expérience quotidienne, et ça je sais que c'est très difficile, qu'il n'y a pas de recette une fois pour toutes et je ne peux pas vous en donner, que je ne suis pas en train de vous dire, de vous donner des méthodes qui si demain matin il surgit une grève je ne sais où, vous permettront immédiatement de savoir ce qu'il faut faire, parce que moi-même j'en saurais rien devant cette grève demain matin, avant d'avoir beaucoup de renseignements, et même avec ce que je peux savoir, ça ne me suffirait pas pour dire avec certitude ce qu'il faut faire, c'est pas si simple. Ce qui est certain, par contre, c'est que sans cette formation, on ne peut pas l'aborder, le problème. Le problème de savoir quoi faire devant une situation qui surgit dans votre coin, dans votre amphithéâtre, dans votre entreprise ou dans votre bureau, ça, sans une formation marxiste, on ne peut pas l'aborder, même l'intuition, le flair, Tout ça, ça réussit un certain nombre de fois, et puis on se casse fatalement la gueule, on tombe dans le, on s'adapte au réformisme sans même s'en rendre compte, parce que c'est la solution à laquelle poussent tous les ressorts de cette société, et que seule la conscience fondée sur la théorie marxiste peut permettre de résister à cette pression. Bon, alors donc, j'espère... qui a la brochure actuellement de Juste? Qui l'a déjà? Alors, qui ne l'a pas? Bon, alors, je souhaiterais que tous les... Il n'y a évidemment ici aucun ressort autoritaire qui puisse imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il y a seulement la compréhension que ce que je dis est juste ou faux. Si vous pensez que c'est faux, il faut en débattre. Si vous pensez que c'est juste, il faut mettre la pratique en accord avec la théorie, quitte même à emprunter 3 francs à quelqu'un. Après tout, ce sont des choses qui sont déjà arrivées, disons. Je souhaiterais non seulement que les camarades qui ne l'ont pas l'apprennent tous ce soir ici, mais qu'un certain nombre de responsables de cercles, ou même de camarades qui ne seraient pas responsables, en prennent plusieurs avec la certitude qu'ils les revendront sans peine, et que comme et que, il ne s'agit pas seulement qu'elle soit vendue, elle le sera. Il s'agit qu'elle le soit vite, pour que le financement des suivantes n'attende pas trop longtemps, parce que la JS ne peut pas sortir d'argent pour ça, et elle a parfaitement raison. Elle le pourrait d'ailleurs, si c'était vraiment d'une importance décisive, à tout prix que ça sorte dans un mois, mais elle aurait tort, dans le cadre qui est celui-là, une telle activité, si les militants en comprennent, et si même ceux qui ne sont pas militants, mais qui veulent se former politiquement, en comprennent la nécessité, ça doit se développer de soi-même, s'autofinancer, et non pas exiger un effort particulier, comme la sortie d'un numéro spécial d'un journal ou d'un tract central. Bien, alors ceci étant dit... J'entre dans le sujet d'aujourd'hui, à propos duquel je veux essayer de revenir au départ, et après tout, si j'ai imposé aux camarades de Grenoble qui ont voulu m'écouter cet exposé d'hier soir, je vais fatalement vous enfiler une partie ce soir, ce qui m'amènera à faire quelques développements dont j'espère vous ne vous plaindrez pas, puis même si vous en plaignez, vous vous en plaindrez qu'après, de toute façon. Donc je peux y aller sur la question des forces productives. Je vais donc reprendre les choses au point suivant. Nous avons vu que, du point de vue du matérialisme historique, l'histoire de l'humanité apparaît schématiquement de la manière suivante. À un certain stade, l'humanité commence à transformer le milieu naturel pour le rendre propre à satisfaire ses besoins. Elle ne se contente plus d'y récolter par la chasse, la pêche, la cueillette, etc., de quoi manger et même se vêtir. Elle commence à transformer le milieu par l'agriculture et l'élevage. La manière dont le passage d'un stade à l'autre s'est produit est extrêmement complexe et ça s'est étendu sur des millénaires. Et ces derniers temps, d'ailleurs, on a complètement changé ce qu'on pensait à ce sujet, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse en ce moment. Ce qui nous intéresse, c'est que de toute façon, ça s'est produit, et qu'à partir de ce moment, d'abord avec l'agriculture comme base de toute production, puis beaucoup plus tard avec une production autre qu'agricole, d'abord artisanale, puis industrielle, l'humanité commence à produire de quoi satisfaire ses besoins, et l'activité productive devient la base de toute activité sociale. La production matérielle et la reproduction matérielle des conditions d'existence devient la base sur laquelle se développe toute la société. En même temps que les hommes produisent des objets, ils produisent des rapports sociaux au sein duquel ils produisent ces objets. Le terme de rapports sociaux veut dire rapport dans la société, les rapports de production étant le fondement de tous les autres. Il y a toutes sortes de rapports sociaux. Un club d'échecs aujourd'hui, par exemple, est une forme particulière de rapport social, et qui serait d'ailleurs intéressant d'étudier pourquoi, par exemple, le jeu d'échecs s'est développé incomparablement plus à l'Est, et en particulier en Russie, que, disons, en France, où la belote joue un rôle plus important et est une forme de rapport social extrêmement développé. Je ne ferai pas cette étude, j'en serais d'ailleurs incapable, mais enfin, s'il y a des camarades qui sont en mal d'une thèse de troisième cycle, il y a une très belle thèse sur la sociologie de la belote et des échecs à faire. De toute façon, il s'agit là de rapports sociaux, Et le fondement de ces rapports sociaux, ce sont les rapports de production, c'est-à-dire ceux au cours desquels les hommes produisent les conditions matérielles de leur existence et les reproduisent. Ces rapports sociaux ne sont pas tombés du ciel, ils ne sont pas une expression de la nature humaine puisqu'ils n'ont pas toujours existé. Ils sont par contre un produit historique de l'activité humaine, produit historique de cette activité qui produit en même temps les objets matériels et les rapports au sein desquels ils sont produits. Rapports tels que l'esclavage, rapports tels que la féodalité ou enfin tels que la vente et l'achat de la force de travail, tels que le travail salarié exploité par des capitalistes, ce sont différents types de rapports sociaux de production. Ces différents types de rapports sociaux de production correspondent à grande échelle historique à différents stades de développement des forces productives. Qu'est-ce qu'il faut entendre par force productive ? D'une manière générale, que l'on parle des forces productives, que l'on parle des rapports sociaux de production ou du mode de production, ou que l'on parle d'entités telles que le capital, par exemple, dont nous parlerons plus tard, dans tous ces cas, la différence fondamentale entre la conception de Marx et du matérialisme historique et celle des sociologues bourgeois, c'est que pour les sociologues bourgeois, il s'agit de choses, d'objets particuliers. Par exemple, le capital, pour les économistes bourgeois, ce sont des machines, des bâtiments, des objets matériels, des choses. Pour Marx, au contraire, c'est son expression même à propos du capital, le capital n'est pas une chose, c'est un rapport social entre hommes, par l'intermédiaire de certains objets, mais dont le fonctionnement, l'apparition historique et le développement et finalement la fin ne s'expliquent que par le fait que ce sont des rapports entre hommes créés au cours du développement historique. Ce qui est vrai du capital est vrai de tous les rapports sociaux, est vrai de l'esclavage, lequel ne se définit pas par le fait que les esclaves seraient les objets possédés par les maîtres, de la même manière que ceux-ci possèdent effectivement des objets matériels, mais même le rapport de propriété n'est pas simplement la possession d'une chose, c'est d'abord un rapport entre hommes qui fait que l'un de ces hommes est propriétaire de la terre, par exemple, et que l'autre est soit esclave, soit travailleur salarié travaillant sur cette terre. C'est un rapport entre hommes, autrement dit, ce n'est pas un produit de la nature, ce n'est même pas une expression de la nature humaine valable pour toutes les époques, c'est un rapport entre hommes produit au cours du développement historique, à un certain stade de ce développement historique. Il en est de même des forces productives. Les forces productives, c'est la capacité de l'homme, de l'humanité, à un certain stade de son développement historique, de maîtriser la nature pour satisfaire ses besoins. Il s'agit encore une fois d'un rapport entre hommes qui n'a une signification que par rapport à l'histoire de l'humanité et non pas d'objet matériel, même si ces forces productives comportent entre autres des forces productives matérielles et par exemple à notre époque des machines, de l'outillage, aussi d'ailleurs des connaissances qui peuvent se matérialiser sous forme de livres ou de microfilms ou de ce que vous voudrez. De toute façon, les objets qui interviennent dans ce rapport social que sont les forces productives, les forces productives ne se réduisent pas à ces objets, il s'agit au contraire d'un rapport entre hommes se traduisant par l'intermédiaire d'objets. C'est en ce sens que Marx écrira à plusieurs reprises, déjà dans Misère de la philosophie en 1846, la force productive principale, c'est la classe ouvrière. Les objets matériels, les machines et même les connaissances sous forme de livres dans des bibliothèques ne sont pas du tout capables de produire par elles-mêmes quoi que ce soit pour satisfaire les besoins de l'humanité. Seuls des hommes vivants le peuvent et ils sont engagés dans des rapports déterminés. Ces rapports de production sont donnés par la société à l'avance à l'individu, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'un individu, par exemple dans la société actuelle, de satisfaire ses besoins sans vendre sa force de travail pour vivre et sans passer par la monnaie et le marché. Il n'y a aucun moyen, même dans les communautés utopiques des gauchistes extrêmes ou des anarchisants, des naturistes, des hippies, ils ne satisfont quand même pas leurs besoins sans disposer de monnaie et sans acheter. Ce qui caractérise d'ailleurs le caractère dégénéré des communautés qui existent aujourd'hui, c'est qu'autrefois, au début du mouvement ouvrier, les communautés du socialisme utopique essayaient de créer un groupe de production qui allait satisfaire tous ses besoins en travaillant la terre, par exemple, alors qu'actuellement, vous avez des communautés qui ne prétendent même pas faire cela, mais qui satisfont leurs besoins sous la forme suivante. Chacun de leurs membres va travailler un certain temps dans les entreprises capitalistes, et de préférence dans des emplois bien payés, parce qu'il s'agit en général de techniciens, d'intellectuels. Après quoi, il utilise l'argent qu'il a gagné, ou ce qu'il lui en reste, pour faire fonctionner sa fameuse communauté, qui démontre par là même qu'elle n'est qu'un parasite social, sans aucun avenir et sans ouvrir quoi que ce soit sur un avenir concevable, puisqu'elle vit en parasite de la société capitaliste telle qu'elle fonctionne. Force productive, rapports sociaux de production et rapports de propriété qui ne sont que l'expression juridique des rapports de production. Dans l'histoire, il commence par y avoir des maîtres et des esclaves avant qu'on ne rédige des lois qui expriment sous une forme juridique les lois de l'esclavage. De la même manière, il commence par y avoir des maîtres, des suzerains et des vassaux bien avant qu'on ne rédige sous forme de codes, qui ne seront d'ailleurs jamais centralisés, le régime féodal. Et même la propriété capitaliste commencera à exister bien longtemps avant que ne soit rédigé le code Napoléon, qui la mettra par écrit d'une manière quasi définitive, qui exprimera sous forme de loi la propriété capitaliste, la liberté du commerce et tout ce qui s'ensuit de rapports de production bourgeois. Les rapports juridiques ne sont donc qu'une expression écrite à laquelle l'État donne force de loi, de rapports de production. Les faits précèdent la loi et les rapports de production sont des faits produits par le développement historique de l'humanité. À chaque niveau particulier de développement des forces productives correspond à grande échelle un mode de production déterminé. Le schéma classique de Marx est alors de parler de trois stades, à savoir le stade le plus bas, celui de l'esclavage, puis celui de la féodalité, correspondant déjà à un développement plus élevé des forces productives, par exemple à la généralisation du moulin à vent et d'un certain nombre de techniques agricoles plus avancées que l'Antiquité n'avait pas connues, aussi d'un développement de l'artisanat que l'Antiquité n'avait pas connu. Enfin, le mode de production capitaliste correspondant au développement de la machine à vapeur, bien que le capitalisme ait commencé déjà à se développer avant, avec comme seule force motrice les muscles humains, mais il prendra vraiment son essor avec la machine à vapeur, puis le développement ultérieur de la technique. Il s'agit là d'ailleurs, ce schéma des trois époques est extrêmement dangereux, en ce sens que plus on remonte vers le passé, et plus les différentes régions géographiques, les différentes nations et les différents continents ont développé des régimes très différents les uns des autres. Aujourd'hui, le capitalisme a unifié le monde dans le cadre du marché capitaliste mondial en tendant à réduire, à supprimer ou à se subordonner toutes les différences issues du passé dans les différents continents. Plus au contraire on remonte en arrière et plus il s'agit de réalités complexes. Mais ce n'est pas pour ce qui nous intéresse le plus pour l'instant, et nous ne nous engagerons pas dans la fameuse discussion qui était vraiment une opération de diversion de la part des intellectuels staliniens qui l'ont entreprise, même s'ils ont dit des choses justes, sur le fameux mode de production asiatique, parce que le même Marx ailleurs en a parlé de quatre modes de production successifs et a situé un mode de production asiatique avant même la généralisation de l'esclavage sous l'Empire romain. Retenez simplement qu'il s'agit d'un schématisme qui est de plus en plus insuffisant pour exprimer la réalité au fur et à mesure qu'on remonte dans le passé, alors que par contre pour le mode de production capitaliste, celui-ci a suffisamment unifié le monde dès qu'il devient le mode de production dominant pour qu'on puisse parler d'un mode de production unique à l'échelle de la planète dès le 19e siècle en tout cas, qui se subordonnera à tous les pays arriérés avec leurs modes de production plus anciens et très divers et très complexes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est de rappeler, par contre, La manière dont le matérialisme historique, après avoir posé ces différentes, après avoir dégagé de l'analyse historique ces différentes réalités, que sont les rapports de production, les forces productives, le mode de production, qui est l'ensemble des rapports de production existant à un stade déterminé, et l'existence d'une concordance entre le développement atteint par les forces productives à un stade donné et les rapports de production existants, le matérialisme historique explique alors que les forces productives se développant peu à peu, très lentement dans le passé, de plus en plus vite depuis à l'époque du capitalisme, les forces productives se développant entrent en contradiction avec le mode de production qui était fondé sur elles et qui leur correspondait, contradiction qui, lorsque le mode de production tend à bloquer complètement le développement des forces productives, aboutit à une crise révolutionnaire de la société. Crise révolutionnaire qui peut se terminer soit par une période de décadence générale de la civilisation, comme ça a été le cas avec la décadence du mode de production esclavagiste sous l'Empire romain, lequel a abouti à une crise qui s'est prolongée pendant des siècles, puis à une période de barbarie, à la nuit du Moyen-Âge, époque par excellence de la domination de l'Église catholique, et ce n'est pas un hasard évidemment, si c'est précisément la période de la pire barbarie où l'Église catholique règnera sans partage sur l'Europe occidentale, c'est-à-dire le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire l'époque du 8e, du 7e, 8e, 9e, 10e, 11e siècle. À partir du 12e, on commence déjà, et surtout au 13e, à assister à de nouveaux développements historiques qui préparent l'avenir. Donc, lorsqu'une la société entre dans une telle crise révolutionnaire, cette crise peut aboutir à une décadence générale de la culture et de la civilisation, sur la base d'une décadence générale des forces productives, ou bien au contraire, s'il existe une classe révolutionnaire qui peut briser l'ancien mode de production et en instaurer un nouveau susceptible de contenir en son sein un développement beaucoup plus vaste des forces productives, alors commence au contraire une nouvelle époque historique avec un développement général de la culture et de la civilisation. L'Empire romain ne connaissait pas de telle classe progressiste. La seule classe qui n'était pas privilégiée, alors qu'il y avait de très nombreuses classes privilégiées, mais plus ou moins et en conflit les unes avec les autres, la seule classe qui n'était pas privilégiée, les esclaves, même si à certaines époques ils ont pu former des utopies de propriété collective, n'étaient évidemment pas capables de passer directement au communisme, parce que ça, le développement des forces productives ne le permettait pas, parce que le communisme, pour ne pas être fondé sur une utopie de la nature humaine vertueuse et du fait que tous les hommes accepteraient de se serrer la ceinture quand il n'y en a pas assez pour tout le monde pour partager également, si de telles utopies morales sont exclues du point de vue du matérialisme historique comme du point de vue de l'histoire, précisément les esclaves ne pouvaient pas apporter le communisme qui aurait supposé des forces productives permettant l'abondance pour tous et la satisfaction sans limite de tous les besoins. L'existence de telles forces productives aujourd'hui est précisément la base de la perspective du communisme, sans quoi il serait une utopie aujourd'hui comme il l'était au temps de Spartacus ou au temps où des déviationnistes de gauche, des stoïciens et de différents groupes pré-chrétiens, mais en fait dérivant plus ou moins de philosophie grecque, comme les Esséniens, essayaient de vivre un communisme ascétique où chacun... où on partageait également parce qu'il n'y avait en fait rien à partager du tout et qu'on vivait dans un ascétisme quasi total. Ça n'a jamais duré très longtemps et à cette époque, les esclaves n'étaient donc pas capables d'être une classe qui prendrait en main la société pour la réorganiser selon un nouveau mode de production permettant le développement des forces productives. Lorsque par contre l'ancien régime féodal, disons féodal entre guillemets parce qu'il y a eu toutes sortes de choses qui se cachent sous ce terme, mais peu importe ici, lorsque cet ancien régime est entré en contradiction directe avec le développement des forces productives qui avaient cru très lentement d'ailleurs, mais néanmoins du 13e au 17e siècle, lorsque cela s'est produit, il existait effectivement une classe qui s'était construite. Le manifeste communiste rappelle en détail comment bourgeois représentants, artisans et commerçants des cités libres du Moyen-Âge, maîtres des corporations, etc., lisez dans le manifeste communiste la description du développement de la bourgeoisie à travers le Moyen-Âge. Cette classe était là, prête à prendre en charge la société, et l'a fait au XVIIe siècle en Angleterre, à la fin du XVIIIe en France et au cours du XIXe, selon diverses modalités, dans le reste de l'Europe. Alors se produit un nouveau développement des forces productives, un développement d'ailleurs d'une impétuosité sans précédent sous le capitalisme, qui atteint un stade tel que le mode de production prend un caractère de plus en plus collectif à l'échelle nationale et internationale, cependant que les rapports de production fondés sur les rapports de propriété, sur la propriété privée des moyens de production, eux, conservent un caractère privé aggravé par les frontières de l'État national. Les forces productives entrent alors en conflit avec la propriété privée des moyens de production et une nouvelle époque révolutionnaire commence. Cependant, le capitalisme lui-même a engendré par nécessité de son fonctionnement une classe qui n'avait jamais existé jusque-là, une classe de travailleurs libres, c'est-à-dire disposant de leur liberté de mouvement et de déplacement, de leurs droits politiques, et qui en même temps ne possède rien d'autre pour vivre que sa force de travail à vendre, le prolétariat, classe dont l'existence est indispensable au fonctionnement même du capitalisme, puisque c'est elle qui produit le profit capitaliste, et que si elle n'existe pas, si elle n'est pas employée à travailler par le capitalisme, par les capitalistes, il n'y a plus de profit et par conséquent plus de capitalisme, mais classe qui en même temps n'a rien à perdre dans ce régime, n'a rien qui l'attache à ce régime parce qu'elle n'y possède rien, et a tout à gagner à la future révolution communiste, classe qui porte en elle l'avenir de l'humanité et qui, à partir du moment où le capitalisme entre en crise révolutionnaire à l'échelle historique, du fait que les forces productives commencent à se heurter aux rapports de production bourgeois devenus trop
étroits pour les millions,
où celle-ci frappe à la porte. Devient le facteur historique principal. Son mouvement pour sa constitution comme classe, puis comme classe dominante, devient la loi même de l'histoire de l'époque de la décadence capitaliste, et même d'ailleurs de l'époque de l'apogée capitaliste déjà. Telle est l'analyse générale que donne le marxisme de l'histoire, et en particulier, comme Marx le fait remarquer dans un texte connu, il n'a pas, dit-il à un de ses amis, écrit-il à un de ses amis, inventé la lutte des classes, des historiens bourgeois l'ont analysé avant lui, en particulier sur la base de l'analyse de la Révolution française, mais ce qui a été sa contribution propre, c'est de démontrer premièrement qu'à notre époque, la lutte entre les classes se réduit de plus en plus à la lutte entre les deux classes fondamentales, celle qui possède les moyens de production et celle qui ne possède rien que sa force de travail, bourgeois et prolétaire. Deuxièmement, que la tendance historique de cette lutte, c'est la tendance à la constitution de la classe ouvrière en classe politiquement dominante, la dictature du prolétariat. Et troisièmement, enfin, que cette dictature du prolétariat n'a pas pour objectif historique d'instaurer un nouveau mode de production dans lequel le prolétariat serait la classe dirigeante et il y aurait une nouvelle classe exploitée, un nouveau mode de production fondé sur la division en classes de la société, mais au contraire que grâce au développement atteint par les forces productives dans le cadre des rapports capitalistes de production, ces forces productives, une fois libérées des entraves de la propriété privée des moyens de production et réorganisées par la classe ouvrière au pouvoir dans le cadre d'un plan global à l'échelle mondiale, permettront la disparition de toute division en classe de la société et de toute différenciation sociale, quelle qu'elle soit, de telle sorte que la dictature du prolétariat elle-même n'est qu'un régime transitoire vers la disparition de toute classe et de tout État, vers la société communiste. Telle est l'analyse générale du matérialisme historique, qu'il importe de compléter en répétant ce qu'ont dit Marx et ses successeurs bien des fois, c'est-à-dire que l'avènement du communisme n'est nullement fatal, qu'il est nécessaire, parce que le développement des forces productives, donc de la civilisation, ne peut se poursuivre que s'il est réalisé et que sinon l'humanité est menacée de tomber dans la barbarie et a commencé déjà à le faire, et il faut ajouter aujourd'hui même dans l'anéantissement, pur et simple, il est donc nécessaire au développement historique de l'humanité, ce qui ne veut nullement dire qu'il est fatal. La bourgeoisie ne négligera rien pour entraîner l'humanité dans sa perte, plutôt que de céder la place au prolétariat si celui-ci n'est pas capable de la battre. Ici se pose tout le problème de la direction révolutionnaire du prolétariat, c'est-à-dire des causes du retard de la victoire de la révolution prolétarienne, alors que l'époque de la crise historique finale, l'époque de la révolution prolétarienne, s'est ouverte en 1917 avec la révolution d'octobre et ne s'est nullement fermée depuis, le capitalisme n'ayant naturellement pas été capable de résoudre ses contradictions fondamentales d'une part, mais d'un autre côté, il n'y a pas de situation impossible pour la bourgeoisie, c'est-à-dire quelles que soient les contradictions objectives, si la classe ouvrière ne la renverse pas, elle trouvera un moyen de survivre aux dépens des travailleurs, aux dépens de la civilisation, aux dépens de la décadence générale, comme elle l'a trouvé à plusieurs reprises sur une grande échelle, avec Hitler et ses chambres à gaz, ou aujourd'hui avec une situation dans laquelle la guerre ne s'est pas arrêtée un seul jour sur la planète depuis 1940, et se développe en réalité sur une échelle de destruction croissante, en dépit des efforts héroïques des masses dépourvues d'une direction révolutionnaire pour vaincre. Telle est l'analyse générale. Et maintenant, revenons à la question, que signifie la thèse fondamentale du marxisme? Les forces productives ont cessé de croître à l'époque de la décadence de l'impérialisme, à l'époque de la crise historique finale. Il est d'abord nécessaire de bien comprendre que dans l'époque de transition entre deux sociétés, tous les phénomènes qui paraissent aller tous dans le même sens, dans une époque au contraire où une société est en équilibre général avec elle-même, tendent au contraire à se dissocier et à se contredire. Les forces productives, je l'ai déjà dit, ne sont pas des choses, bien qu'elles comportent des objets tels que les machines, l'outillage, etc. Néanmoins, leur caractère fondamental est d'être les forces productives de l'humanité, c'est-à-dire la capacité de l'humanité de dominer la nature pour satisfaire ses besoins, et non pas simplement quelque chose de mesurable avec les méthodes des sciences de la nature. Les forces productives ne se réduisent en aucune façon à la technologie. Pendant la période où les rapports sociaux de production sont en harmonie générale avec les forces productives, tous les éléments qui interviennent dans les forces productives vont dans le même sens. Au XIXe siècle, le développement du mouvement ouvrier atteint un tel stade qu'en 1848, la révolution qui commence comme une révolution bourgeoise en France, ayant pour but de substituer à un régime bourgeois dans lequel le pouvoir, le régime de Louis-Philippe, est limité à une aristocratie financière restreinte, d'y substituer un pouvoir beaucoup plus large associant au pouvoir toutes les couches de la bourgeoisie, très rapidement néanmoins le prolétariat entre en lice, se dresse comme classe avec ses revendications propres et se heurte à la bourgeoisie. Il sera écrasé en juin 48, mais il sera écrasé après avoir développé politiquement complètement ce qui l'oppose à la bourgeoisie, sa revendication du droit au travail, alors que pour la bourgeoisie, il s'agit simplement de réaliser un nouvel équilibre politique entre les différentes composantes de la bourgeoisie au pouvoir, en particulier un équilibre plus favorable à la bourgeoisie industrielle, alors que c'était les banques qui gouvernaient sous Louis-Philippe et des banques qui n'étaient pas les banques d'aujourd'hui étroitement liées au développement de l'industrie, mais qui étaient simplement des banques de prêteurs d'argent à l'État, touchant des intérêts extrêmement élevés sur les prêts d'État et s'intéressant peu au développement de l'industrie. Le prolétariat se dresse Et alors que dans le reste de l'Europe, la révolution a commencé comme une révolution ayant les tâches bourgeoises à remplir, notamment en Allemagne, l'unification du pays sous la direction de la bourgeoisie et la destruction des anciens états féodaux monarchistes, avant tout la monarchie prussienne fondée sur la grande propriété terrienne des Junkers, le fait que le prolétariat se dresse déjà face à la bourgeoisie, alors que celle-ci, dans le reste de l'Europe, n'a pas encore accompli la révolution bourgeoise, fait que la bourgeoisie renonce en fait à accomplir les tâches de la révolution bourgeoise en Allemagne, capitule devant la réaction prussienne, de peur que si elle voulait remplir les tâches qui sont les siennes, il lui faudrait mobiliser les masses, comme elle a été encore capable de le faire dans la grande révolution française, ce qui lui donne son caractère de révolution bourgeoise par ses résultats historiques, mais une révolution qui mobilise les masses et dépasse déjà largement le cadre de la bourgeoisie par son fonctionnement, ce qui donne son caractère spécifique à la révolution française, qui a d'ailleurs été pour Marx l'image à partir de laquelle il a élaboré sa théorie de la révolution permanente que Trotsky devait reprendre par la suite. En Allemagne, le prolétariat est déjà beaucoup plus avancé, la bourgeoisie est beaucoup plus faible. L'expérience de ce qui vient de se passer en France avec le prolétariat se dressant contre la bourgeoisie elle-même avec ses propres revendications de classe fait que la bourgeoisie capitule devant les anciennes monarchies parce qu'elle ne peut compter que sur elle et sur leurs forces de répression pour écraser le prolétariat dont elle a bien plus peur. Marx en tirera d'ailleurs les conclusions et élaborera précisément sur la base de cette expérience de la révolution de 48 en Allemagne, la théorie de la révolution permanente sous la forme qu'elle prend dans la circulaire de juin 1950 de la Ligue des communistes et qui sera ensuite reprise par Trotsky en 1905 pour la pousser beaucoup plus loin. Conclusion générale qu'en tire Marx et qu'en ont tiré depuis les marxistes, en particulier Trotsky dans un texte qui est reproduit, entre autres, dans le dernier numéro de La Vérité, il me semble, c'est qu'à partir de 1848, on doit caractériser le capitalisme comme relativement réactionnaire, en ce sens que si la révolution socialiste avait vaincu en 1848, et le fait fondamental est que la révolution commençait dans toute l'Europe, ne pouvait vaincre qu'en tant que révolution socialiste, et comme elle n'a pas pu le faire, alors, elle a été écrasée, aussi bien en Allemagne qu'en Hongrie et qu'à Vienne et que dans toute l'Europe centrale, où la monarchie des Habsbourg subsistera jusqu'en 1914, grâce à la victoire contre-révolutionnaire remportée par elle avec l'aide du tsar sur la révolution de Vienne et sur la révolution hongroise l'année suivante, sur la révolution allemande, victoire remportée par la Prusse également avec l'aide du tsar. Donc, à partir de cette date, si la révolution socialiste avait vaincu, le développement des forces productives se serait fait beaucoup plus vite et beaucoup plus harmonieusement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se fait pas sous le capitalisme. C'est en ce sens que Marx a pu affirmer, et Trotsky après lui, en reprenant le développement historique déjà passé, que dès 1848, on peut dire que le capitalisme est relativement réactionnaire, que les crises qu'il secoue périodiquement expriment qu'il a commencé, que les forces productives commencent à se heurter violemment aux rapports de production, de façon au moins périodique, il y a destruction massive, après quoi la marche en avant reprend, relativement seulement, parce qu'en même temps, le 19e siècle verra effectivement un développement impétueux des forces productives, comme nous décrivent les prophètes du néo-capitalisme aujourd'hui, alors que là, il a réellement existé. Le développement des forces productives, c'est à la fois tous les facteurs à ce moment-là. C'est le progrès impétueux de la science et de la technique. On peut dire que la science physique commence à être une science au XIXe siècle à partir de la thermodynamique inspirée directement par les besoins des moteurs, des machines à vapeur et des moteurs à explosion. On pourrait montrer comment la chimie commence à être une science à la même époque en fonction de la création puis du développement de l'industrie chimique, notamment en Allemagne. On pourrait continuer là-dessus et faire toute l'histoire du développement des forces productives au XIXe siècle. C'est à la fois le développement de la science et de la technique, C'est à la fois le développement formidable du rendement du travail multiplié par 10, 20 ou 50 suivant les branches d'industrie au cours du 19e siècle. C'est à la fois le développement du produit national et de la production industrielle. Je n'ai pas les chiffres dans la tête, mais je peux risquer d'affirmer sans beaucoup d'erreurs que, par exemple, la production industrielle de l'Angleterre, pays économiquement en tête pour tout le 19e siècle, sera multiplié au cours du 19e siècle peut-être par 20 ou par 50, que la production de charbon passera de presque rien à un chiffre 50, 100 fois plus grand. Et on pourrait reprendre ceci pour toutes sortes d'éléments. J'en citerai un parce qu'il est palpable. En comparant précisément avec la situation actuelle, il me paraît particulièrement éloquent, ce qui correspond peut-être à mes goûts pour les chemins de fer. Vous pouvez toujours interpréter ça comme vous voudrez. Le 19e siècle, en tout cas, est entre autres choses le siècle qui construit tous les grands réseaux de chemin de fer européens. En 1830, il n'y a pas encore un chemin de fer et des bourgeois comme ceux d'Orléans refusent que cette machine horrible traverse leur ville, ce qui, comme vous savez, a encore des conséquences aujourd'hui, à savoir que la gare d'Orléans est dans un cul-de-sac et que les grandes lignes passent aux Aubrais, la même chose à Tours. Cependant, d'ailleurs, des savants démontrent que les gens qui auront le malheur de traverser le tunnel de Versailles, lequel existe toujours sur la ligne de Montparnasse, ils contracteront des congestions pulmonaires mortelles et je ne sais plus quoi encore. Mais le chemin de fer se construisent néanmoins, et dès la fin du 19e siècle, tous les grands réseaux de chemin de fer sont construits. Le dernier grand tunnel alpin sera percé en 1911, il me semble, celui du Simplon. Et avec le chemin de fer, c'est la civilisation qui marche. Il est frappant de constater, par exemple, que la première internationale tiendra ses congrès grâce au chemin de fer. La construction de la première internationale qui tiendra son premier congrès en 1866 à Genève, congrès rassemblant les représentants de l'avant-garde prolétarienne des principaux pays d'Europe, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, de la Suisse, de l'Italie, de l'Espagne, de la Hollande et de la Belgique, et en plus les représentants de l'émigration révolutionnaire polonaise par exemple, et d'autres encore, mais ces congrès n'auraient même pas pu se réunir, et le fonctionnement de la première internationale, sa constitution même aurait été inconcevable sans le développement des chemins de fer. C'était pas possible. Les chemins de fer de troisième classe, puisque c'était cela qui existait actuellement et qui était évidemment les wagons que prenaient les militants ouvriers, mais c'est à partir de là que s'est construit la première internationale et même la deuxième. Le Parti socialiste en France, mais il s'est construit parce que par des hommes comme Jules Guesde, qui allaient parcourir les régions à Saint-Étienne, même tenir des réunions dans les mines, dans les différents pays de mines, et évidemment, il n'aurait même pas pu concevoir de faire cela dans le cadre d'une activité nationale sans le chemin de fer pour les transporter, qui leur permettait de faire ce genre de voyage de propagande en 8 ou 15 jours, alors qu'autrefois, il aurait fallu des mois, ça n'aurait même pas été possible. C'est vraiment, si vous voulez encore d'ailleurs un exemple frappant, au temps où la bourgeoisie américaine avait encore confiance en elle-même et en son avenir historique, c'est-à-dire il y a 20 ou 30 ans, au temps où elle était fière, y compris de ses crimes, et d'avoir anéanti les Indiens, ça ne les empêchait pas de dormir. Aujourd'hui, ça leur donne des cauchemars, ce qui d'ailleurs ne ressuscite pas les Indiens et ne les empêche pas de massacrer les Vietnamiens. À cette époque-là, ça ne leur donnait aucun cauchemar. Regardez les vieux westerns qui expriment cette confiance. C'est d'ailleurs significatif. Cette production apparaît à une époque où le capitalisme américain est la première puissance mondiale, mais où, tel qu'il est au moment même, ses représentants culturels ne sont plus tellement sûrs que ce soit si bien que ça. Il y a le problème des Noirs, il y a un tas de choses qui ne vont pas tellement bien, et ils le savent. Il y a eu la grande crise mondiale de 1929, qui est apparu dans un monde d'euphorie où ils étaient persuadés du progrès illimité du capitalisme, véritablement comme le fantôme qui apparaît et qui vient leur dire « mais tu vas mourir, ne l'oublie pas ». La grande crise de 1929, d'un seul coup la production américaine en quelques mois réduite de moitié, 15 millions de chômeurs sur un nombre de travailleurs total de 50 ou 60 millions. Je dis ça en passant parce qu'il ne faut pas se figurer non plus que la crise, le stade où nous en sommes actuellement, est quoi que ce soit de comparable. Nous avons expliqué qu'il y avait une marche vers la crise économique mondiale. Nous avons dit que nous étions arrivés à ce stade et ce serait une profonde idiotie de le croire. Précisément, d'ailleurs, toute la situation se déroule dans le cadre de cette marche et des efforts que fait la bourgeoisie pour la ralentir. Mais cette crise de 29 était venue et ils avaient besoin de reprendre confiance en se retrempant dans un passé qui leur paraissait ne pas poser de tels problèmes. Et alors vous voyez dans les vieux westerns, le chemin de fer, c'est cette ridicule machine du Far West, elle n'est pas si ridicule que cela. C'est la plus grande puissance du monde qui marche avec elle et qui avance avec elle kilomètre après kilomètre. La plus grande puissance du monde en gestation, dont quelques hommes clairvoyants, dont Engels, ont vu qu'elle allait être la première puissance du monde, dans les années 60-70, en particulier après la victoire du Nord dans la guerre de sécession. Pour les autres, c'est encore en dehors des limites du monde civilisé, ou presque, les États-Unis. Et pourtant, le chemin de fer, c'est cela, c'est incontestablement cela. Vous le voyez avancer, y compris avec des centaines d'ouvriers qui meurent en le construisant, y compris avec les bagarres qui éclatent autour, y compris avec les Indiens qui sont écrasés par l'avance même du chemin de fer. Et en même temps, c'est la civilisation qui avance, elle est palpable, kilomètre après kilomètre. La civilisation sous la forme brutale et sauvage du capitalisme, mais il n'y en a pas d'autre. C'était le stade de développement historique nécessaire de l'humanité, il ne faut pas l'oublier. Le spectacle que décrit le manifeste communiste, la bourgeoisie a démontré que toutes les époques antérieures n'étaient que crasse paresse. Elle a montré pour la première fois ce que c'était vraiment que de travailler, de produire et de transformer le monde sur une échelle sans précédent, mais c'est la vérité. Et c'était cela. C'était la civilisation qui avançait. Avec elle, c'était le prolétariat. Expression suprême de la civilisation capitaliste parce qu'il annonce son dépassement, qui se développait en nombre et en culture. Avec le chemin de fer vient l'imprimé, vient la presse, vient les petits journaux, les grands journaux et les moyens journaux qui diffusent une culture qui est certainement frelatée et défectueuse, mais qui est néanmoins une culture là où il n'y avait rien. Et va venir au point suprême, au moins en France, l'école laïque, l'enseignement public pour tout le monde, où tout le monde apprendra un minimum de choses, expression suprême de cette marche en avant des forces productives sous cette forme spécifique, en même temps que conquête des masses. Comparez cela à ce qui se passe aujourd'hui. Comparez cela à une situation. Et regardez un peu, il faut voir aussi qu'à cette époque, la hardiesse incroyable des ingénieurs de la bourgeoisie. Mais ils ont construit des réseaux de chemin de fer secondaires, départementaux, avec des œuvres d'art fantastiques, avec des viaducs, comme le viaduc de Garabit, qui était la gloire de l'industrie française il y a encore 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, ils préfèrent ne pas en parler parce qu'on est en train de fermer la ligne qui s'en servait. Mais regardez les chemins de fer des Alpes-Maritimes, les différents chemins de fer départementaux qui, pour atteindre de petites villes, construisent des œuvres d'art incroyables. Parce qu'effectivement, le chemin de fer, c'est le transport de masse. Qui rattache ensemble des régions où les gens avaient l'habitude de ne jamais sortir de leur village, qui transforme réellement. Et regardez maintenant la situation, c'est un exemple mais qui est vraiment, à mon avis, frappant, symbolique. J'en ai déjà parlé, tant pis si je rabâche. Regardez New York, la plus grande ville du monde, incapable de nettoyer ses ordures, envahie par ses propres ordures et incapable de les nettoyer parce qu'ils ne peuvent ni payer assez cher un nombre de déboueurs suffisant, parce que personne ne veut faire ce métier sans être payé cher, et ils ne peuvent pas les payer plus cher. La ville de New York est en déficit au point d'être au bord de la faillite en tant que budget de ville, bien qu'elle paye les impôts les plus élevés du monde du point de vue d'impôts locaux. Et les ordures sont régulièrement non évacuées dans la plupart des quartiers pauvres de New York, c'est-à-dire d'une ville qui dépasse largement, en tant qu'agglomération, 10 ou 15 millions d'habitants, et en fait qui s'étend beaucoup plus encore. Mais ils sont incapables de régler un problème pareil. Et on est en train de nous dire que le capitalisme développe les forces productives. Les forces productives, ce sont les forces productives de l'humanité, ça n'est pas quelque chose qu'on mesure comme sur une balance enregistreuse ou comme dans un laboratoire de physique, c'est la capacité de l'humanité de satisfaire ses besoins, y compris ses besoins collectifs de services publics. La même chose est vraie pour les transports urbains, là où la bourgeoisie a construit effectivement les transports de masse, y compris à Paris les tramways à vapeur. Les tramways à vapeur, puis les premiers métros électriques. Et les premiers métros électriques, ça n'a pas duré 20 ans à construire comme le RER. Évidemment, c'était beaucoup plus facile, on pouvait construire sans creuser le sol profondément, mais précisément avec les progrès de la technique, il n'y a aucun problème technique de ce point de vue. Les problèmes sont uniquement sociaux et économiques à résoudre. Du point de vue des ingénieurs, vous pouvez leur demander n'importe quoi, disons dans leur carton, toutes les solutions à tous les problèmes de la vie dans les grandes villes, facilement. Tout, ils ont. Mais la bourgeoisie ne le fait pas. mais à New York, le métro a été construit au début de ce siècle et c'est le même, de telle sorte que régulièrement il y a des pannes de métro dans les grands tunnels où il meurt 10, 20, 50 personnes faute d'aération. Pourquoi panne de métro? Parce qu'il a été construit pour transporter 5 fois moins de gens à une autre époque et qu'on ne l'a pas modernisé. Puis qu'il n'est pas question de le moderniser, pas question, il n'y a pas de plan pour ça, il n'y a rien. Et les embarras de voitures à New York, alors à côté d'eux, ceux de Paris, c'est une petite plaisanterie campagnarde, n'est-ce pas? Et la dose mortelle d'oxyde de carbone est atteinte régulièrement 10, 15, 20 fois par an, puis on n'y peut rien, on n'y fait rien. On n'envisage même pas d'y faire quelque chose sérieusement. On parle, bien sûr, les politiciens parlent. On pourrait continuer, y compris la perspective d'une épidémie de peste à New York un de ces jours est, à mon avis, une perspective fort raisonnable. Parce qu'avec cette accumulation d'ordures non évacuées, il suffit qu'un rat convenablement pesteux arrive dans la cale d'un navire. Et alors là, il faut comprendre. Effectivement, l'une des composantes des forces productives, la science et la technique, ont continué à se développer au cours du XXe siècle et ont même connu un développement incomparablement plus rapide que n'importe quand dans le passé. Les conséquences sont entre autres que si cette épidémie, il ne faut pas rire de l'épidémie de peste à New York, parce que nous avons eu en Europe occidentale au cours de l'été dernier le début d'une épidémie de choléra. Alors, c'est à savoir le choléra qui a commencé en Espagne et qui s'est étendu en France et même jusqu'en Angleterre. Certes, la médecine est en mesure de faire face lorsque le choléra commence, certes, grâce à son développement, alors qu'au XIXe siècle, pratiquement tout le monde succombait dès qu'il était atteint. Aujourd'hui, vous avez 9 chances sur 10 à peu près de sortir vivant si vous êtes atteint du choléra et soigné comme il faut avec les moyens dont dispose la médecine actuelle. Mais que néanmoins, il ne soit pas capable d'empêcher cette épidémie, mais c'est sidérant. Regardez le problème des transports urbains. Mais cette monstruosité qui s'accumule sans espoir, qui s'aggrave continuellement dans toutes les grandes villes. Est-ce que la bourgeoisie au 19e siècle aurait toléré une chose pareille? Jamais. Elle résolvait ce genre de problème. Elle créait l'auto, elle créait l'avion, et elle le mettait en route. Alors, effectivement, il y a toutes sortes d'éléments dans les forces productives et dans l'époque de transition, ces éléments en quelque sorte se dissocient entre eux et entrent en conflit les uns avec les autres. La science a continué, bien entendu, à progresser en dépit du freinage formidable du capitalisme, en dépit du fait que les imbéciles qui nous parlaient de société scientifique devraient aujourd'hui expliquer pourquoi nous sommes partout en face d'un arrêt de la recherche fondamentale et même de la recherche scientifique en général. Tous ceux, et il faut faire attention au fait très intéressant, que aussi bien les staliniens fondent sur l'affirmation que le développement de la science et de la technique a atteint un degré que personne n'avait prévu, et qu'à cause de cela, la lutte des classes aujourd'hui n'est plus exactement celle que Marx avait prévue, ils ont écrit cela sous bien des formes, et en particulier, d'ailleurs, ils l'écrivent dans des périodiques staliniens d'Europe orientale où ils expliquent qu'il y a maintenant une nouvelle classe ouvrière dans des termes que ne désavoueraient pas Serge Mallet ou Belleville, auteur de la fameuse théorie selon laquelle il y a une nouvelle classe ouvrière. C'est précisément sur ces progrès de la science et de la technique qu'ils se fondent pour affirmer que le capitalisme n'est plus celui exactement que Marx et Lénine avaient analysé et il sera possible de passer par les voies parlementaires au socialisme grâce à cela. Les staliniens ont écrit ça 20 et 50 fois, je ne vais pas vous infliger de la lecture des citations, si vous les voulez, elles ne sont pas difficiles à trouver et continuent à l'écrire sous toutes les formes. Et de l'autre côté, vous avez les obscurantistes, les chrétiens, les réactionnaires de tout poil, y compris les gauchistes, qui expliquent qu'il y a le développement de la science et de la technique, effectivement, et là où pour les staliniens c'est le bien qui va permettre de passer au socialisme sans révolution, pour, au contraire, ces gens-là, c'est le mal, c'est l'ennemi qui, par exemple, Marcuse explique que la classe ouvrière est devenue réactionnaire du fait de ce développement de la science et de la technique qui lui donnerait un haut niveau de vie. Les gauchistes expliquent les vrais révolutionnaires, ils l'expliquaient en tout cas après mai 68, ce sont les intellectuels et les étudiants et les nouvelles couches déclassées par ce qu'ils appellent la société scientifique. Pour les uns, ce développement de la science est le bien, pour les autres, c'est le mal, mais tous le prennent comme point de départ pour attaquer le marxisme. Le détail de cela a été exposé bien des fois. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de le faire plus, mais si vous voulez, vous poserez des questions. Sinon, ça a été exposé dans des articles d'études marxistes, par exemple, et dans 20 autres textes. Quoi qu'il en soit, si nous regardons maintenant la réalité, nous voyons de toute façon que la recherche scientifique n'a jamais atteint plus de 3% du produit national aux États-Unis, où c'était le maximum, et plus de 2% dans d'autres pays. Que cette recherche, d'autre part, alors que par contre le budget militaire, lui, atteignait de 15 à 20%. Donc si on voulait parler de société scientifique, il faudrait plutôt parler de société militaire si on ne veut plus parler de société capitaliste, ce qu'elle est bien entendu, parce que en parlant de société capitaliste, vous exprimez le mécanisme des rapports sociaux de production et de la classe dirigeante, c'est-à-dire la réalité fondamentale. Qui plus est, ces 3% du produit national, même aux États-Unis, étaient consacrés pour les 9 dixièmes au moins au développement sous l'égide des trusts de produits très particuliers, tels que l'application d'une technique déjà bien connue pour la perfectionner, ou tels qu'aujourd'hui, sous la pression des associations de consommateurs aux États-Unis, la construction de voitures un peu moins dangereuses que la General Motors est obligée de construire, après qu'il a été démontré à une très grande échelle que les voitures qu'elle construisait étaient de véritables pièges meurtriers en cas d'accident. En France, d'ailleurs, la pression des consommateurs ne s'exerçant pas de la même manière, on continue à construire les mêmes voitures qu'avant, alors que la General Motors est obligée maintenant, et elle est obligée aussi par les lois aux États-Unis, de créer des voitures moins polluantes, c'est-à-dire d'éliminer 80 ou 90% de l'oxyde de carbone dans les gaz d'échappement d'ici 1975. Elle est déjà d'ailleurs en train de supplier le gouvernement de lui accorder un nouveau délai. Entre-temps, les 20% restants, d'ailleurs, seront en quantité largement suffisante pour dépasser ce qu'il y avait avant. Mais la question n'est pas là. Recherche de développement, parfaitement d'ailleurs symbolisé aux États-Unis par la construction d'une admirable machine qui a été vendue comme gadget à des centaines de milliers d'exemplaires et qui avait aux yeux des bourgeois un avantage formidable, c'est qu'il était démontré qu'elle ne pouvait servir rigoureusement à rien. C'était une belle machine qui fonctionnait bien, qui était bien jolie et qui ne produisait rien du tout, aucun effet utile d'aucune sorte. Dans quelle mesure est-ce qu'un tel développement, 9 dixièmes des spécialistes, des savants, des ingénieurs et des techniciens travaillant à cela, peut être considéré comme un développement des forces productives, c'est-à-dire de la capacité de l'humanité de satisfaire ses besoins, pendant que la question des transports urbains devient de plus en plus intolérable et écrase, pendant que le bruit se développe et la pollution sous toutes ses formes, c'est précisément la question. Parce qu'au XIXe siècle, en dépit de tous les sous-produits défectueux du développement du capitalisme, il n'en reste pas moins vrai que dans l'ensemble, y compris les masses profitaient de ce développement. Elles en profitaient incomparablement moins, les couches inférieures du prolétariat, que les couches supérieures, et à plus forte raison que les petits, moyens et grands bourgeois. Néanmoins, elles en profitaient, fût-ce sous la forme de l'école publique, fût-ce sous la forme du livre à bon marché, et par là même d'acquérir une culture élémentaire sous la forme de petits bouquins reproduisant les œuvres de Victor Hugo, comme c'était le cas en France, ou de Zola, comme c'était le cas en France sur une très grande échelle au XIXe siècle. Ils en profitaient sous cette forme et sous bien d'autres, y compris la possibilité, par exemple, de se rendre dans les grandes villes pour un congrès, moyennant des dépenses qui étaient tolérables à la rigueur, bien coûteuses pour une bourse ouvrière, ce qui était impossible avant. Aujourd'hui, nous avons une inversion de tous ces facteurs. Les 9 dixièmes, donc, de ces 3% sont employés à cela. Ou plus exactement, les 9 dixièmes de ce qui n'est pas employé par les militaires, c'est-à-dire les 9 dixièmes du dixième. Parce que les 9 dixièmes, déjà, de la recherche scientifique, c'est uniquement pour les militaires, et tous les grands progrès techniques qui ont été réalisés sont pratiquement utilisés uniquement par les militaires, uniquement pour la destruction sur une échelle sans précédent. L'électronique, par exemple, eh bien, à part toute une série de gadgets qui, finalement, ne changent pas fondamentalement les choses, avoir des machines à laver et des frigidaires, c'est une bonne chose. Dans le cadre d'un logement qui est construit selon les mêmes critères qu'au Moyen-Âge, à ceci près qu'il est beaucoup moins solide et qu'il tombe en morceaux dès qu'on pousse un peu fort sur une paroi. Et de ce point de vue, d'ailleurs, il y a une situation extraordinaire aujourd'hui, c'est que les HLM sont encore mieux construites que les appartements de luxe. Pourquoi ? Eh bien, parce que sur les HLM, il existe un minimum de contrôle qui s'appelle contrôle municipal, contrôle d'un syndicat de municipalité, et ces municipalités, fussent-elles de droite ben, ils retournent quand même un jour devant les électeurs et ils n'ont donc pas tellement intérêt à ce que ceux-ci qui viennent d'acquérir un logement s'appuient sur une paroi qui cède aussitôt, comme c'est le cas, vous savez, parce qu'évidemment, le jour de l'élection, le maire fut-il UDR et profiteur, ben, ce type-là, il va voter contre lui, ça c'est clair. Et on pourra lui faire tous les discours qu'on voudra, ça ne changera rien. C'est pourquoi sur les j'ai eu l'occasion d'en discuter récemment avec un spécialiste du bâtiment, enfin, un contrôle très, à un niveau très élevé. Et actuellement, les HLM sont mieux construites encore que les appartements de luxe parce qu'il n'y a aucun contrôle sur les appartements de luxe. Il n'y a aucun contrôle, alors que sur les HLM, il y a quand même un certain nombre de critères que petit à petit, ils s'en sont venus à imposer. N'en reste pas moins vrai que ces HLM un peu moins mal construites sont construites dans un environnement où il n'y a ni loge, ni magasin, ni école, etc. Toute chose qui n'était pas possible autrefois. Au 19e siècle, l'école progressait avec l'usine. Parce que le patron avait besoin d'ouvriers qui sachent lire, écrire et compter, pas parce qu'il était idéaliste et partisan des Lumières. Alors qu'aujourd'hui, il n'en a plus besoin. Il n'a plus besoin d'ouvriers cultivés. Il n'a plus besoin d'ouvriers qualifiés. Il a besoin de la destruction de l'enseignement technique et il est engagé dans cette voie. Voilà le problème des forces productives. Alors maintenant, poursuivons encore. Y compris cette partie consacrée au développement de la science. Eh bien, c'est vraiment la portion la plus minime, au moins à peine un millième du produit national, qui est consacrée à ce dont dépend tout le reste, c'est-à-dire à ce qu'on appelle la recherche fondamentale, c'est-à-dire à la recherche qui est faite sans aucun objectif pratique immédiat, pour cette raison précisément qu'on cherche ce qu'on ne connaît pas du tout et par là même on ne peut pas fixer à l'avance ce qu'on va trouver d'aucune façon. Or, ce sont précisément les découvertes qui sont faites dans ce domaine qui ensuite nourrissent tout le reste. Einstein a posé en 1905 l'équivalence de la masse et de l'énergie. Ah ben ça, il n'avait pas prévu lui-même qu'il allait poser cela, mais c'était typiquement de la recherche fondamentale, vérifiée ensuite par l'expérience et par les expériences coûteuses, et c'est de là qu'est sortie toute l'énergie nucléaire et tout le reste. D'une part la bombe, d'autre part les usines de production d'énergie et tout le reste. Et de ce point de vue, il est évident que l'arrêt de la recherche fondamentale, ou plus exactement son freinage systématique, signifie un appauvrissement inévitable de tout le reste. Et alors actuellement, en plus, la bourgeoisie de plus en plus liquide la recherche scientifique. Donc toutes les billes pesées sur le rôle de la science dans cette société se limitent à ceci, que malgré la décadence générale du capitalisme, le progrès de la science s'est poursuivi parce que la civilisation n'a pas cessé, et parce que sur la base déjà créée, elle ne pouvait que se poursuivre. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il se crée d'immenses réserves de connaissances scientifiques et techniques qui ne sont pratiquement pas employées pour les besoins humains, sauf encore une fois pour les militaires. L'appareil qui va dans la Lune utilise les dernières ressources d'une technique prodigieuse. Les sous-marins nucléaires, même le sous-marin français, sous-produit des sous-produits, mais enfin, 30 ans après les autres, il faut quand même qu'ils arrivent à quelque chose. Ce sous-marin est une merveille, un prodige de la technique, comportant des découvertes qui pourraient... Il est clair que cette même technique qui peut faire cela, eh bien, elle peut par exemple résoudre le problème du nettoyage des rues des villes avec la plus grande facilité. Et réunissez les ingénieurs, dites-leur maintenant il s'agit de régler ce problème qui est un scandale pour l'humanité. Il nous faut que le gouvernement ouvrier les réunisse et leur dise il nous faut d'ici 3 ans que l'ensemble des rues soit propre à New York. Ou qu'à Paris, ils les réunissent et disent « il nous faut d'ici 5 ans une solution satisfaisante pour le problème des transports urbains. Nous ne sommes pas en train de discuter des crédits qu'on va vous donner. Faites les comptes, nous avons de l'argent, nous ne produisons plus de bombes. Et nous récupérons les prodigieuses quantités d'énergie gaspillées par l'anarchie du capitalisme, qui est absolument incroyable. Discutez avec un technicien dans n'importe quelle branche et vous verrez que aujourd'hui, les 9/10 des techniciens de haut rang sont employés à ne rien faire et à ce qu'il leur soit interdit de faire quelque chose, parce que s'ils faisaient quelque chose, ça compromettrait le fonctionnement du régime du profit. Il y a par exemple au ministère de l'équipement des techniciens de très haut rang qui avaient tenté de créer un contrôle d'État sur les constructions et à qui on interdit à tout prix de dire quoi que ce soit, parce que s'ils disent quoi que ce soit, ils vont mettre en cause les promoteurs, non pas sous l'angle de l'escroquerie, mais sous l'angle du fonctionnement normal et régulier d'un système qui aboutit à la construction de logements dits de luxe qui ne tiennent pas debout, qui sont faits dans les conditions primitives. Que la semi-industrialisation du bâtiment qui a eu lieu en France au cours des 20 dernières années a eu un but précis, on a éliminé tous les métiers qualifiés qui existaient autrefois, de maçons, de plâtriers, de choses de genre, semi-artisanaux, on n'en a plus besoin, on utilise des manœuvres portugaises, et puis c'est tout, c'est pas l'industrialisation, c'est pas l'automatisation, elle n'y est pas. Et alors que, bien entendu, elle serait possible, et elle serait possible, y compris, enfin, il est clair que la technique qui envoie Apollo sur la Lune, avec trois hommes vivants et qui les ramène, ce qui est d'ailleurs sidérant, ben, elle peut beaucoup plus facilement construire des logements convenables, des logements réellement modernes, c'est-à-dire des logements, par exemple, où la poussière n'existerait pas, où elle serait éliminée d'elle-même. C'est facile, ça. On le fait dans Apollo, parce qu'il faut le faire, au millionième près, plus qu'au millionième. Là, il faut le faire, sinon c'est la mort. Bon, ben, dans nos logements, si c'était fait au centième près, on s'en contenterait, vous comprenez, sans avoir à bouger, les machines sont là, la technique est là. Parlons des transports urbains. Mais il existe dans les cartons des sociétés, non pas une solution à ce problème, mais 10 ou 20. Il existe, par exemple, aux usines Matra, on travaille sur une espèce de transport automatique à la tête du client. C'est-à-dire, vous voulez aller à tel endroit, vous pressez un bouton, il arrive un train dans lequel vous montez dans le wagon numéro 7 qui ira à cet endroit. Alors l'aiguillage se fera de lui-même, il se détachera là où il faut de la rame, il se raccrochera à un autre et vous arriverez à 100 km à l'heure à cet endroit. Tout est prêt, sauf la réalisation, parce que la bourgeoisie n'a pas intérêt, elle ne peut même pas le faire. Il existe d'autres solutions, il existe l'aérotrain qui est une chose magnifique. À part si c'est le marché, une invention française qu'ils disent, mais elle ne sera sûrement pas appliquée en France, sauf peut-être pour un transport de banlieue ridicule, alors que sa véritable vocation est de transporter 1 million de personnes par jour, s'il le faut, à 500 km/h du centre d'une ville au centre d'une ville, ce que ne peuvent pas faire les avions, et ils pourraient même atteindre probablement au moins 800 km/h avant d'être dépassés, c'est-à-dire la vitesse actuelle du transport par avion courant. Sauf que les avions, eux, polluent l'atmosphère, alors que, par contre, ce transport ne polluerait pas du tout, puisqu'il est entièrement électrique. Sauf que, bon, enfin, il y a 20 autres choses à dire, et ça coûterait moins cher. C'est la véritable solution. Eh bien, la SNCF va construire une voie de Paris à Lyon supplémentaire de turbo-train, technique qui est déjà à son terme, qui atteindra au maximum 400 ou 500 km/h, qui polluera l'atmosphère, mais qui a l'avantage de ne pas entrer dans le cadre d'une technique complètement neuve que le capitalisme ne peut plus produire parce qu'il arrête les forces productives. Alors, pendant certaines phases, l'arrêt des forces productives signifie en même temps l'arrêt du produit national, c'est-à-dire du total des revenus des citoyens d'un pays, ce qui est d'ailleurs une notion assez abstraite, et disons même l'arrêt de la production industrielle. Ça a été le cas pour le capitalisme entre 1914 et 1937, ou 1940. Par exemple, l'industrie américaine en est au même niveau de production globale vers 1937-38, après la grande crise, qu'elle en était en 1913. Les théoriciens de la croissance impétueuse des forces productives et du néo-capitalisme disent que c'était une autre époque et aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça. Et il est vrai que nous avons assisté au contraire, à partir de 1941-42, à un progrès du produit national brut et de la production industrielle qui va du simple au triple et au quadruple aux États-Unis. Seulement ces théoriciens oublient un certain nombre de choses, dont la plus décisive est la suivante. C'est que jusqu'en 1940, la production de guerre représentait 1% de ce même produit national aux États-Unis, alors qu'il va commencer à se développer et à sortir du marasme seulement avec la croissance vertigineuse de la production de guerre. Depuis 1942, aux États-Unis et dans tous les grands pays capitalistes, mais les États-Unis c'est celui qui entraîne tout le reste, la production de guerre, la production d'armement représentera au minimum 15% du produit national, alors qu'avant elle ne représentait jamais plus de 1%, et tendra encore à augmenter. Alors effectivement, il y aura développement global du produit national. Mais le moteur de ce développement ne sera pas comme dans le passé. Bon, disons la construction des chemins de fer au XIXe siècle, ou le développement de la métallurgie, en particulier le développement de la métallurgie de l'acier, puis de l'industrie chimique dans une phase ultérieure, ce sera uniquement la production d'armement. Bien entendu, l'expression extérieure en sera les investissements d'État, parce que la production d'armement est vendue à l'État et non pas à des consommateurs privés ou même à des capitalistes privés. Éventuellement, elle est vendue à d'autres États, comme le commerce de guerre de M. Pompidou, qui est extrêmement important pour vendre des armes à un peu tout le monde dans les pays arriérés. Mais c'est quand même l'aspect très secondaire de la question. Essentiellement, la production d'armement américain est achetée par le gouvernement américain sous la forme de la création de monnaie de singe pour payer. C'est fondamentalement le mécanisme de l'inflation qui sape toutes les monnaies et le système financier. De ce point de vue, ils ont développé des techniques très élaborées, mais le fond des choses reste celui-là, et il ne peut pas être autre. S'agit-il alors du développement des forces productives ou de leur transformation en forces destructives quand on réalise que le moteur de tout ce développement du produit national, c'est exclusivement la production d'armement, ça n'est rien d'autre. Récemment encore, pour faire face, pour réduire le chômage, mais pour essayer d'empêcher qu'il n'augmente aux États-Unis l'année prochaine, le gouvernement américain vient de lancer un budget en déficit de plus de 25 milliards de dollars par an, contrairement d'ailleurs à tous les principes du Parti républicain qui permet toujours le Parti démocrate de faire des budgets en déficit, mais ça c'est l'aspect drôle de la chose. Mais le fond de la chose, c'est pas ça. C'est que depuis des mois, il s'exerce une pression sur Nixon pour lui dire c'est bien d'imposer 10% de réévaluation des monnaies pour faciliter les exportations américaines, ça ne suffira pas, il faut réinjecter des crédits dans l'économie. Ben, il ne peut pas injecter autre chose que des crédits de guerre. Pendant des mois, d'ailleurs, ils ont expliqué, on va financer des grands travaux, on va baisser le taux de l'intérêt, ce qui permettra aux capitalistes qui produisent autre chose même que des armements d'emprunter à bas prix et par conséquent de développer leur production, ça n'a rien donné. Il y a deux postes qui augmentent dans ce budget. Premièrement et d'abord massivement les armements une nouvelle fois, c'est-à-dire que alors que déjà ont été stockés de quoi détruire 20 fois cette planète, et deuxièmement, le second poste qui augmente, c'est le poste de l'agriculture. Alors vous savez que les théoriciens de la science néfaste qui se développent aujourd'hui, le groupe Survivre qui sévit dans les facultés des sciences sous la direction d'un certain nombre de grands savants qui viennent brusquement de découvrir qu'il se passait des choses en dehors de leur science et qui n'y comprennent strictement rien. C'est-à-dire d'ailleurs qu'on voit maintenant Grothendieck prêcher dans Survivre l'arrêt de la recherche scientifique. La bourgeoisie a d'ailleurs suivi sans lui demander son avis ses directives. Vous pouvez voir qu'en France, elle est tout à fait d'accord, elle l'arrête. Il n'y a pas d'erreur, elle lui donne plus de crédit, mais ce n'est pas ça qu'il veut, une nouvelle science qui sera, dit-il, des nouveaux alchimistes. Voilà où en est tombé ce grand mathématicien. Je ne sais pas s'il lit ce périodique, Le Grand Albert, ce mensuel de la sorcellerie lancé avec beaucoup de dépenses et de frais extrêmement luxueux. En tout cas, à tel point que François s'est senti concurrencé et a publié une série d'articles pour expliquer comment est-ce qu'on devient voyante. Ils ont envoyé une de leurs journalistes devenir voyante, et elle est devenue voyante, et elle a remporté beaucoup de succès pour voir et pour prédire l'avenir à toutes sortes de bonnes femmes à grands frais. Mais n'empêche d'ailleurs que si vous tournez la page dans François, vous voyez les horoscopes. Vous voyez les horoscopes. Il est vrai qu'une époque qui considère qu'il est indécent de reprocher à des gens de croire à un Dieu qui a trois personnes dans une seule, et dont l'une, avec l'une des trois personnes qui a toutefois deux natures, et qui est née par l'opération du Saint-Esprit ainsi que sa mère, laquelle est ensuite remontée au ciel. Une telle époque, évidemment, n'a pas à reprocher à d'autres gens de croire à la sorcellerie et au fait qu'il est dangereux de passer sous une échelle. En plus, c'est vrai, parce que l'échelle peut tomber, ça c'est incontestable, ça arrive. Mais nous voyons ces savants prêcher donc contre la science sans se rendre compte absolument de quoi ils parlent. Or, les mêmes nous expliquent, le groupe des 111 savants avec la bénédiction de la reine d'Angleterre viennent nous expliquer que l'humanité était menacée de famine totale d'ici une quinzaine d'années. Alors, je pense qu'il faut en prendre et en laisser parce qu'il y a déjà 20 ans, ils ont prédit la même chose et qu'il n'y a pas encore cette famine totale. La question n'est d'ailleurs pas là. De toute façon, ce qui est certain, c'est que le poste de l'agriculture qui augmente aux États-Unis n'a pas pour but, comme on pourrait croire, d'accroître la production agricole ou de résoudre le problème du danger des insecticides en trouvant de meilleures méthodes ou je ne sais quoi. Il a pour but de réduire la production agricole. Ce budget qui est le second du budget américain, qui est le seul qui augmente après celui des armements, a pour but d'empêcher les agriculteurs américains de produire parce qu'ils produisent trop et qu'on ne sait pas quoi faire de leurs marchandises que l'État s'est engagé à acheter s'ils ne pouvaient pas vendre et qu'ils ne peuvent pas vendre. Le marché américain est saturé par l'activité productrice de 3% de la population américaine qui travaille à l'agriculture. 3%. Dans ces conditions, il est assez clair d'une part que la technique et la science ont créé les moyens de résoudre tous les problèmes des besoins humains, mais d'autre part que l'obstacle est la transformation des forces productives en forces destructives par le capitalisme, la destruction de la mise en friche de terres cultivables, la destruction aussi d'hommes ayant des connaissances techniques. Aux États-Unis actuellement, il est vrai que le développement de la science est parfaitement symbolisé par le fait que, comme l'a remarqué en premier, je crois, Oppenheimer, sur dix scientifiques qui ont vécu toute éternité, qui ont existé pour l'humanité depuis le début, 9 sont vivants actuellement, et sur ces 9, 5 ou 6 sont aux États-Unis. Oui, seulement ce qu'il faudrait ajouter aujourd'hui, c'est que sur ces 5 ou 6, 3 sont en chômage. 3 sont en chômage et ne retrouveront jamais de travail, jamais. Aux États-Unis actuellement, il y a un chômage massif chez les techniciens de très haut rang, de très haute qualification, et chez les savants. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur travail et n'ont aucune chance d'en retrouver jamais, il n'y a plus de place pour eux. Récemment, le périodique Business Week a publié une enquête sur le chômage aux États-Unis. Qui est chômeur? Alors, ils ont trouvé le noir qui était garçon d'ascenseur. Et maintenant, les ascenseurs marchent tout seuls. Ils ont trouvé un tas de gens comme ça, y compris l'ouvrier classique qui est trop feignant pour travailler et qui est chômeur à cause de ça. Bien sûr, c'est un périodique très réactionnaire. Et puis, ils ont interviewé un homme qui, lui, était ingénieur de l'aérospatiale. Et avec l'arrêt du programme Apollo et la liquidation, enfin la mise en veilleuse de l'activité spatiale, les usines, les entreprises capitalistes qui travaillaient pour la NASA ont fermé leurs portes à une échelle massive. Il y a un chômage massif, des centaines de milliers ont été licenciés. Alors en particulier cet ingénieur qui avait 50 et des années expliquait à Business Week, moi je gagnais $100,000 par an. C'est pas le dernier degré, hein, $100,000 par an. Naturellement, j'ai pas fait d'économie, ils n'en font jamais. Ils en gagnent 100 000, ils en dépensent 120 000. Avec le système de crédit, ils s'endettent pour le reste de leur jour. Ils ont une maison qui est hypothéquée pour 20 ans, c'est-à-dire que si le salaire cesse, ils perdent la maison. C'est ce qui leur arrive. Alors il a dit, moi je croyais jusqu'à présent que si on a une haute qualification comme j'ai, c'est vrai, c'était un type éminent, il y en a peut-être 2000 aux États-Unis, non pas 2000, mais 20 ou 30 000 comme lui, pas plus. Depuis 30 ans, il travaillait dans des usines d'aviation ou d'aéronautique pour l'espace, changeant d'ailleurs d'entreprise tous les 3 ans et n'hésitant pas s'il trouvait du travail plus intéressant ou même s'il en trouvait tout simplement à aller à se déplacer de 5000 km d'un bout des États-Unis à l'autre. Et donc, je croyais que si on avait une qualification assez élevée, si on était prêt à travailler dur et qu'on ne regardait pas à 8 heures par jour, mais que quand c'était pressé, on travaillait, on ramenait du travail chez soi, on travaillait 10, 12, 14 heures pour le bureau d'études, payé comme il faut en supplément, ça n'a pas de problème, le patron sait reconnaître le travail, mais qu'on était prêt à le faire. Et si en plus on était prêt à prendre du travail à n'importe quel endroit des États-Unis, de l'Alaska à la Californie, s'il y avait du boulot intéressant là, alors on pouvait toujours s'en sortir. Je le croyais et je sais maintenant, dit cet homme de 50 et des années, que c'est faux. Cet homme qui gagnait $100,000 par an en gagne peut-être 2 ou 3 000 actuellement à placer des pochettes de je ne sais pas quoi en allant de porte en porte les vendre parce qu'il n'a pas autre chose à foutre. En fait, il serait déjà clochard si ses enfants, qui, dit-il, heureusement, n'ont pas pris un métier d'ingénieur qualifié comme le mien et qui ont encore du travail, je ne sais plus ce qu'ils font, ne le soutenaient pas. Il serait clochard purement et simplement. Il n'y a rien, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de mutuelle ni d'assurance d'une échelle convenable, il ne serait plus rien. Mais de toute façon, il n'est plus rien, parce qu'il représente une force productive infiniment précieuse. Parce qu'avec ses connaissances techniques, il peut non seulement, bien entendu, travailler aux fusées, mais il peut aussi, s'il le faut, travailler au transport urbain ou à 20 000 autres choses. C'est pas difficile. L'ensemble des connaissances techniques qu'il a lui permettrait de faire ça si la société le lui demandait et lui le payait pour qu'il se reconvertisse pendant 6 mois d'études, de s'occuper de besoins humains plus directement importants que l'envoi d'astronautes, bien que d'ailleurs le régime de la dictature du prolétariat aux États-Unis pourrait très bien s'offrir et les planètes et les transports urbains et tout le reste. Étant donné le prodigieux gaspillage de forces productives à la destruction qui est employée actuellement, étant donné d'autre part l'extraordinaire parasitisme développé par les grands trusts au sein duquel dans les bureaux fonctionne la fameuse loi de Parkinson et le principe de Peter, c'est-à-dire la loi de Parkinson qui est qui a démontré comment, lorsqu'il existe dans un bureau d'un grand trust un employé qui remplit une certaine tâche, il faut nécessairement que, sous prétexte de le contrôler, on en embauche un autre pour faire le contraire et un troisième pour arbitrer entre les deux. Le principe de Peter, selon lequel chacun est toujours employé à ce qu'il sait le moins faire dans les grands trusts, c'est un peu exagéré, mais ça exprime une réalité profonde de l'anarchie du capitalisme, du fait qu'il faudrait le contrôle des travailleurs sur la production, et que pour qu'il y ait ce contrôle sur la production, il faudrait que cette production soit destinée à satisfaire leurs besoins. Alors que dans l'état actuel des choses, il s'agit de ne pas être viré en ayant l'air de faire ce que veut le directeur, mais pas du tout de faire quoi que ce soit d'utile. Et que dans ces conditions, c'est le désordre le plus grand dans les grandes entreprises capitalistes. Demandez à n'importe qui, tantôt on travaille pendant 10 heures par jour d'urgence extrême pour finir je ne sais quoi, après quoi c'est le désordre, on détruit, on perd, on désorganise, on licencie des travailleurs qui forment une équipe et qui avaient donc acquis la possibilité de travailler ensemble pour embaucher n'importe qui. Le gaspillage est prodigieux. Il n'y a pas une entreprise en France même où, si les travailleurs contrôlaient la production, ils ne pourraient pas en 4 heures par jour produire largement autant qu'ils ne produisent en 8, et suivant les besoins, soit travailler plus et produire plus, soit au contraire s'organiser pour avoir des loisirs plus grands. Tout le monde sait ça. De consulter n'importe qui travaille dans une grande entreprise, il vous dira période d'activité fébrile, suivie de désordre, etc. Bon. Alors, il est évident qu'on pourrait se payer tout, mais en attendant, le capitalisme, en liquidant des dizaines de milliers d'ingénieurs comme lui qui ont 50 ans et qui n'y a plus de place pour eux dans cette économie. Alors, d'ailleurs, Business Week était très conscient que ça, c'est grave, dit-il. Il y a déjà un Américain sur 4 qui, lui, est un pauvre, à 3 000 $ par an entretenu par l'État sous forme d'allocation. Alors, celui-là, c'est un noir qui n'a aucune éducation, ses enfants n'en auront donc pas, il sera rejeté définitivement, il n'y a aucun espoir pour eux. C'est un petit blanc fermier de région où l'agriculture est liquidée et qui n'ont pas la possibilité de quitter la région pour faire autre chose parce qu'ils n'ont pas l'éducation qu'il faut ni leurs enfants. C'est toutes sortes de gens comme ça, par dizaines de millions, y compris dans les ghettos des grandes villes, etc. Ça, on le sait, c'est la fameuse autre Amérique, on connaît son existence depuis déjà 10 ou 15 ans. Et là, on voit la différence avec l'époque de la croissance du capitalisme, où il y avait l'armée industrielle de réserve, les chômeurs, mais qui tantôt travaillaient et étaient embauchés en totalité pendant les périodes de boom, puis dans une crise se reconstituaient massivement, le reliquat qui ne travaillait jamais plus étant extrêmement faible. Aujourd'hui, ces gens-là sont rejetés définitivement à tout jamais. Même s'ils ne comptent pas sur la liste des chômeurs officiels, ils ne peuvent que tout au plus être travailleurs agricoles pendant les récoltes, embauchés à l'heure, etc., etc. Mais maintenant, voilà que des techniciens de haut rang sont réduits à cela, dit Business Week. Ça, c'est grave. Effectivement, c'est grave pour le capitalisme américain. Si l'on pense que tout l'équilibre social aux États-Unis repose sur la bureaucratie syndicale, et que la bureaucratie syndicale repose elle-même essentiellement sur ces travailleurs hautement qualifiés qui pensaient, comme cet homme, que celui qui veut travailler dur et qui a l'éducation nécessaire comme lui, il n'y est pas qu'il était un privilégié, ben celui-là, il s'en tire, et ma foi, les autres, ils ont qu'à en faire autant ou à se débrouiller. C'était la philosophie et l'opinion d'une masse de centaines de milliers d'aristocratie ouvrière aux États-Unis. Si ceux-ci commencent à dire, comme cet homme, ben « je croyais ça, c'est faux », il est clair qu'il se prépare des bouleversements fondamentaux et que l'avenir du mouvement de classe du prolétariat aux États-Unis n'est pas plus sombre qu'en Europe, même s'il est moins immédiat. Mais en même temps, vous comprenez le mécanisme de la destruction des forces productives, qui s'exprime aussi sous cette forme. Dans ces conditions, la science pouvant continuer à que tout ce qui se développait parallèlement et d'une certaine manière relative en équilibre pendant la période où le capitalisme était encore relativement réactionnaire, donc relativement progressiste, se désarticule et que chaque progrès de la science n'est plus du tout ce que, il faut comprendre que ce qu'expliquait Marx dans le manifeste communiste, aujourd'hui les progrès de la science ne sont plus utilisés au bien-être de l'humanité. En fait, c'était beaucoup plus pour l'avenir que c'était vrai encore que pour le présent. Pour le présent, c'était vrai au moment de chaque crise périodique qui interrompait brusquement le développement et qui entraînait une destruction massive de biens et de forces productives, de chômage, etc. Entre-temps, le développement reprenait, et bien que les masses en aient profité incomparablement moins que les autres, elles en ont tiré un certain profit, non pas tant du point de vue de la part qu'elles avaient dans le revenu national, que du point de vue de la part qu'elles avaient à un développement général de la culture et de la civilisation, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais aujourd'hui, tous ces progrès de la science et de la technique ont été utilisés pratiquement exclusivement contre l'humanité, pour empoisonner son milieu naturel et le détruire sur une échelle qui est incontestablement dramatique. Seulement, de ce point de vue, ces messieurs de survivre qui nous font des prophéties apocalyptiques en disant d'ici 20 ans, tout le monde sera mort, empoisonné par une atmosphère méphitique et par un océan pollué, indépendamment du fait qu'ils exagèrent un peu, et ça pourrait se démontrer. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il faut faire la révolution socialiste avant que cette catastrophe n'arrive, c'est tout ce qu'on peut dire. Et certainement pas aller prêcher dans les rues le retour au valage des cavernes ou la technique post-industrielle des néo-alchimistes que vous trouvez dans le dernier numéro de Survie, ce qui est vraiment... Il est vrai que Grothendieck est totalement chaud, sinon il y aurait vraiment de quoi faire dresser ses cheveux sur sa tête si c'était possible d'écrire de pareilles conneries. Parce que s'il y a une chose qui est évidente, incontestablement, le fait d'avoir diffusé au fond des lacs et au fond des océans des quantités de mercure constitue, je donne ça comme exemple parmi bien d'autres, constitue un obstacle énorme supplémentaire à l'édification du socialisme. Il faudra dépenser incomparablement plus de force de travail pour aller chercher ce mercure là où il est, le rassembler et l'évacuer, qu'il n'aurait fallu en dépenser pour ne pas l'y mettre. Du point de vue des possibilités techniques de ne pas polluer l'atmosphère, il n'y a aucune difficulté. Rassembler les ingénieurs et les éditeurs, maintenant, c'est ça qu'il faut faire. On n'est pas en train de discuter combien ça coûtera. On est en train de discuter que les besoins de l'homme, c'est d'avoir une atmosphère pure. Donc, débrouillez-vous, il nous faut une voiture électrique d'ici 10 ans. Et en attendant, il nous faut des voitures à essence qui ne polluent pas l'atmosphère. On payera ce qu'il faudra, mais ils vont vous dire, mais nous savons quoi faire. Ou si nous ne le savons pas, nous le saurons bientôt. Tout ce que nous demandons, c'est d'avoir les moyens de travailler. Trouver des détersifs que les bactéries détruisent, mais ils sont trouvés. On ne les utilise pas parce que les trusts chimiques n'ont pas intérêt à les utiliser parce qu'ils coûtent un peu plus cher. De même que les enzymes ne servent strictement à rien en réalité dans la lessive, fussent-ils boutons, et ils ont été introduits et présentent peut-être certains dangers, ça c'est pas sûr. Tout ça c'est classique, de même que systématiquement les grands trusts des textiles artificiels mélangent à la fibre de nylon un produit corrosif parce que sinon elles seraient pratiquement éternelles. De même que, mais il y a un millier de choses comme ça, 100 000, 1 million. Bon, alors tout ça, c'est simplement pour donner une idée de ce que récupérerait le gouvernement ouvrier et la dictature du prolétariat immédiatement, du jour au lendemain, sans même de nouvelles découvertes. Mais alors ces hommes qui nous disent, à l'échelle du monde entier, il faut maintenant faire face à la destruction du milieu et à son empoisonnement, et par conséquent, il faut abandonner la civilisation industrielle pour faire on ne sait pas quoi, parce qu'ils oublient de dire que sans insecticides, l'agriculture se réduit immédiatement à sa production aux trois quarts ou au quart ou au cinquième de ce qu'elle est, et que les trois quarts de l'humanité, là, ils meurent de faim à coup sûr. Ça, il n'y a pas d'erreur. Alors, bien sûr, ils s'en foutent, apparemment. Alors, d'un autre côté, il est vrai que la technique peut produire les insecticides qu'il faut et peut résoudre tous les problèmes qu'on lui posera, qu'en tout cas, c'est notre seule chance. C'est dans cette science et dans cette technique qu'est la seule chance, la seule possibilité de faire face aux méfaits de leur emploi par le capitalisme et de les régler. Il n'y a pas autre chose. Et précisément lorsqu'il s'agit de la circulation des produits chimiques à l'échelle du globe tout entier, de leur diffusion dans l'atmosphère de ceux qu'il ne faut pas ou dans les cours d'eau, etc., mais précisément il est clair que seule cette nouvelle science, l'écologie, peut y faire face, mais qu'elle ne peut y faire face qu'à l'échelle du globe entier. C'est-à-dire que s'il y a un domaine où la planification socialiste mondiale s'impose de façon urgente, c'est celui-là. Et qu'il s'agit non pas de demander qu'on arrête la science, mais de demander au contraire qu'on la développe davantage et qu'on lui donne les instruments qu'il faut pour faire face à l'échelle mondiale, parce qu'il est clair que là, il s'agit d'un problème qui, par sa nature même, est tel qu'il ne s'agit pas de produire moins d'oxyde, de mettre moins d'oxyde de carbone en Europe pendant qu'on en mettra plus en Amérique du Sud ou en Chine. C'est la même atmosphère dont nous bénéficions et c'est le même océan. S'il y a vraiment un problème typique qui, par sa nature, exprime d'une part le fait que le capitalisme transforme les forces créées par l'humanité en forces de destruction qui se tournent contre l'humanité, et d'autre part, où au contraire, il faut utiliser les ressources les plus extrêmes de la science et de la technique, celles qu'on ne peut pas utiliser à l'heure actuelle, qui existent seulement sous forme théorique, potentielle, pour résoudre les problèmes à l'échelle globale, mais c'est vraiment celui-là. Alors évidemment, ces messieurs savants incontestables de très grande classe viennent brusquement de découvrir qu'il y avait un autre domaine et qu'il y avait des gens méchants qui utilisaient leurs découvertes mathématiques pour créer des bombes et que c'était fort triste et pour polluer l'atmosphère. Brusquement, ils viennent de découvrir ça. Alors, ils sortent dans la rue et crient arrêtez, arrêtez la science, arrêtez la technique, arrêtez tout et changeons tout. Ben, il faut répondre à ces messieurs qu'à notre grand regret, qu'il y a aussi une science du développement historique de la société, qu'il y a une science du développement du mouvement historique de la classe ouvrière vers son émancipation, et que l'histoire n'est pas le jeu où se diffusent leurs idées librement, que l'histoire n'est pas le produit des idées des uns ou des autres, et que si les capitalistes sont en train de détruire à la fois le milieu naturel et de menacer l'humanité de destruction, soit par les bombes, soit par d'autres, mais soit par l'ensemble des conséquences néfastes de leur régime, ça n'est pas parce qu'ils ont des idées où ils pensent qu'il faut faire cela, ça n'est pas parce qu'ils seraient adeptes d'une certaine religion scientiste, comme le prétendent ces braves gens qui n'y comprennent vraiment rien du tout. Monsieur Nixon croit dans le Dieu de la Bible et non pas dans le scientisme, et Monsieur Pompidou va à Notre-Dame et non pas adorer la science quelque part, et vous pouvez continuer ainsi. De toute façon, ces gens n'adorent pas du tout la science. Ça, alors là, s'il y a une chose, ils adorent le profit et pas la science. Et même, ils se méfient de plus en plus de la science parce qu'elle est de moins en moins utile au profit et de plus en plus nuisible. Seulement, alors, il nous reste à expliquer à ces gens que l'histoire ne se fait pas en fonction des idées qui leur sont brusquement passées par la tête depuis 2 ans, même si c'est louable de leur part d'avoir découvert cela et d'aller jusqu'au point d'abandonner leur propre recherche scientifique pour qu'elle ne soit pas utilisée par les militaires, même si, à vrai dire, il n'est pas évident que la géométrie algébrique de Grothendieck avait une efficacité directe sur les militaires, mais enfin, après tout, c'est de toute façon très honorable de sa part, mais qu'il ne se figure pas que ça va modifier le développement historique de l'humanité et ses lois, lesquelles existent et demandent à être analysées sérieusement si on veut y intervenir. Bon, j'ai dû laisser de côté toute une partie des choses qui devaient venir dans cet exposé, ce qui m'obligera à en reparler une autre fois, mais je crois que c'était pas inutile parce qu'il est temps. Alors maintenant, évidemment, M. Weber pense que la notion de force destructive n'a pas sa place dans le marxisme. On peut démontrer qu'elle l'a simplement en lisant l'idéologie allemande et en cherchant à la fin de ce livre dans l'index où on trouvera force productive, leur tendance à une transformation en force destructive, page temps. Et puis vous vous reporterez à la page temps et vous verrez ce que Marx et Engels en pensent. Mais admettons même un instant. Et je crois que si vous voulez dire quelque chose aux théoriciens du développement massif et impétueux des forces productives, indépendamment du fait que si le capitalisme développe les forces productives, on ne voit pas bien pourquoi le socialisme serait nécessaire, tout au plus serait-il possible, comme au XIXe siècle, dans ce sens que le socialisme le développerait encore plus vite, mais sûrement pas nécessaire, puisque le capitalisme ne menace pas l'humanité de la chute dans la barbarie et de la destruction s'il développe les forces productives, c'est-à-dire le contrôle de l'homme sur la nature, c'est-à-dire la capacité de l'homme de satisfaire ses besoins dans tous les domaines matériels et culturels. On peut d'abord lui dire ça, puis on peut lui dire aussi ceci. Il explique, du point de vue marxiste, qu'une machine soit utilisée à produire des chaussures ou des canons, ça ne change rigoureusement rien. Alors il faut donc dire que, même si la notion de force destructive n'existe pas chez Marx, qu'il faut encore une fois, ça c'est l'évidence, mais la question n'est pas là, supposons qu'un nouveau progrès prodigieux de la science permette de fabriquer une machine unique, une machine qui vraiment alors utilise le travail d'un million de techniciens, soit 10 fois dans la complexité de projet Apollo, bien plus, et qui est pour effet de, lorsqu'on pressera sur le bouton, en un milliardième de seconde, c'est la durée normale des réactions nucléaires, de la réaction d'une particule, en un milliardième de seconde, grâce à des progrès décisifs qui permettent de créer de l'antimatière et par conséquent de volatiliser la totalité de la matière en énergie et non seulement, comme aujourd'hui c'est le cas, une fraction d'un millionième, et bien cette machine, d'un seul coup, elle perce 1000 trous à la fois dans l'écorce terrestre, d'où jaillit le magma central, avec destruction généralisée garantie dans les 5 secondes suivantes. Ça n'est certainement pas complètement hors de portée, bien que ça exigerait en effet un nouveau progrès. Alors, est-ce que cette machine pourrait être caractérisée ou non comme une force destructive, même si Marx n'en a pas parlé? Je vous invite à poser la question à des représentants éminents et de base de la Ligue communiste en leur disant, nous, on voudrait comprendre si... Parce que, alors là, vraiment, si ça n'était pas chez Marx qui est faux, ben, il faudrait peut-être l'ajouter. Parce que s'il y a une chose qui est vraiment absurde, c'est de considérer que les forces productives sont des choses en soi, la science une divinité régnant au ciel pendant que l'humanité est sur la terre, et que les forces productives ne sont pas les forces productives de l'humanité, sa capacité de domination de la nature, alors que précisément le problème posé aujourd'hui par la révolution socialiste, c'est que l'humanité qui maîtrise la nature maîtrise et contrôle consciemment son propre développement historique. C'est précisément l'objectif de la révolution prolétarienne qui est devenue aujourd'hui nécessaire à cause de ce que je viens d'expliquer. Ce qui ne veut pas dire pourtant qu'elle soit fatale, mais si elle est seulement possible, cela veut dire que l'histoire de l'humanité devient une espèce de jeu de hasard entre des puissances qui échappent aux hommes. Tout le matérialisme historique se dissout.
Il n'y a pas de règle absolue à ce sujet qui puisse exister.
Que je préfère ne pas répéter exactement ce que j'ai dit une première fois, mais dire autre chose qui finalement converge vers le même but. Bon, alors maintenant, pour répondre à cette question, il faut d'abord quand même dire une chose. Finalement, que ce soit dans Marx ou que ce soit pas dans Marx, que ce soit chez Trotsky ou pas, on peut prouver que ça y est. Dans La Dernière Vérité, il a reproduit un discours de 1921 où Trotsky explique que les forces productives ont cessé de croître, c'est pourquoi la révolution est à l'ordre du jour. Mais toutefois, il ne faut pas oublier que ça ne suffit pas pour qu'elle l'emporte. Et il prend comme point de départ, naturellement, la même citation de la préface de Critique de l'économie politique définissant le matérialisme historique que Stéphane Just a pris comme point de départ dans l'analyse qu'il consacre à ce problème dans le tome 2 de Défense du Trotskisme. Le plus drôle est que Stéphane ne connaissait pas ce texte de Trotsky à ce moment-là. C'était tout à fait satisfaisant, ça montre, comme je l'ai dit, vous avez quelques idées communes. Peut-être Trotsky le dit d'ailleurs un peu mieux, mais enfin, faut pas. Bon, je ne pense pas que même Stéphane le nierait, mais c'est quand même frappant d'ailleurs, sans plaisanterie, de voir que, essayant d'aborder le même problème, ils l'ont fait exactement à partir du même texte de Marx. Bon, parce que c'est le même problème, puis c'est tout, et c'est le même problème abordé par des marxistes, ils n'ont pas 36 manières de le faire, même si le développement peut ne pas être identique. Bien, mais de toute façon, même s'ils n'en avaient jamais parlé, ils y ont pris dans l'idéologie allemande ou ailleurs, le problème que j'ai exposé tout à l'heure se poserait quand même. Il se poserait quand même, et la question serait de savoir, de toute façon, si avec le progrès des forces productives, le socialisme est nécessaire ou non. Et si on peut parler de progrès des forces productives avec tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, du caractère de ces forces productives qui n'est pas simplement quelque chose qu'on mesure sur une échelle graduée, tant de kilowattheures par tête d'individu à l'échelle mondiale, oui, mais le fait que ces kilowattheures soient utilisés à nous éclairer, à nous chauffer et à mouvoir des moteurs utiles pour satisfaire les besoins humains, ou bien soient utilisés au contraire, par exemple, à faire passer le fil électrique, à faire passer le courant dans le fil électrique que Nietzsche proposait comme seule solution au problème de l'humanité, à savoir que toute l'humanité s'accrocherait à ce fil et qu'on ferait passer le courant à haute tension et qu'on n'en parlerait plus. Eh bien, effectivement, ça userait pas mal de kilowattheures. Il faudrait peut-être même développer la production d'énergie électrique pour électrocuter d'un seul coup 4 milliards d'êtres humains. Il n'est quand même pas évident que ce serait la même chose que si le nombre de kilowattheures se développe pour d'autres usages. Autrement dit, le problème, il existe de toute façon. Maintenant, alors, Marx a posé ce problème, effectivement, au moment où il élaborait les catégories les plus générales du matérialisme historique. Engels, relisant le manuscrit beaucoup plus tard, dit « ça montre en tout cas que nos connaissances en économie politique étaient à cette époque très bornées ». Effectivement, vous trouverez dans l'idéologie allemande qu'il n'est pas encore question de la vente et de l'achat de la force de travail, même plus tard dans le travail salarié et capital, dans les conférences de 1848 et dans Misère de la philosophie, Marx n'a pas encore élaboré la théorie qui sera celle du capital, en particulier la théorie du salaire, même dans le manifeste communiste, s'exprime la théorie selon laquelle le salaire est toujours réduit nécessairement au niveau le plus bas, compatible avec la survie des travailleurs, alors que dans le capital, une autre théorie sera exposée, celle que vous trouvez dans Salaire, prix et profit, selon laquelle le salaire tend effectivement à être réduit au plus bas, mais que c'est finalement le rapport de force entre les classes qui décide, et que par conséquent, il y a justification de l'action syndicale et des grèves, pour obtenir une amélioration des conditions de salaire et de travail, tout en préparant l'émancipation du prolétariat, c'est-à-dire la révolution. Sur tous ces points, il a évolué et modifié, approfondi sa conception. Mais en même temps, l'idéologie allemande donne des caractères généraux et le capital n'a pas été achevé. Il ne faut pas oublier que l'ouvrage, le manuscrit du capital, qui est le plus général que nous possédions, c'est celui de 1857, plus tard publié sous le titre « Fondement de la critique de l'économie politique en français ». Dans ce manuscrit, il y a toute une série de problèmes sur lesquels Marx n'est jamais revenu ensuite dans les rédactions ultérieures parce qu'il n'a pas achevé son œuvre. Le livre 1, il l'a rédigé entièrement, il en a fait 4 ou 5 rédactions successives, dont une l'a satisfaite suffisamment pour qu'il la publie. Les livres 2 et 3, tels que nous les possédons, sont des extraits des manuscrits de Marx et de rédactions successives inachevées, toutes faites par Engels, dont toute une série de parties sont inachevées. Vous trouverez par exemple que le dernier chapitre du livre 3 est intitulé « Les classes sociales » et que Marx, là, se propose d'expliquer ce qui fonde les classes, et il commence, il n'a pas terminé, ça s'arrête là, c'est d'ailleurs bien dommage, ça nous aurait sûrement appris quelque chose, mais toujours est-il qu'il a posé la plume de ce manuscrit avant même le livre 1, c'est-à-dire en 1864 ou 5, et qu'il s'est arrêté là. Et il y a toute une série de choses qu'il se proposait de reprendre, qu'il n'a pas eu le temps de développer, en particulier dans le livre 3, où toute la théorie de la tendance à la baisse du taux de profit est exposée, mais ses conséquences ultimes ne sont pas là. Or, si vous reprenez le manuscrit de 1857, vous voyez que c'est là qu'est introduite la fameuse théorie « la science tend à devenir une force productive immédiate » et qu'elle est interprétée précisément dans le sens du pronostic de la tendance à la catastrophe du capitalisme, du fait de la tendance à la baisse de taux de profit. Je ne m'explique pas maintenant là-dessus parce que dans cette réponse, je ne peux pas. Ça sera l'une des choses que je me propose de faire dans les exposés d'économie et je ne peux vraiment pas, il faudrait une heure d'exposé maintenant pour que ce soit compréhensible à ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Mais de toute façon, là, il explique encore les progrès de la science. Enfin, il explique en 1857 que les progrès de la science et de la technique sont tels qu'aujourd'hui, le capitalisme tend à retirer les ouvriers de la production immédiate et à les remplacer par des contrôleurs d'un immense automate. À tel point que l'éditeur français a pu intituler cette partie en mettant un sous-titre appelé « Automation ». Et c'est exactement, non pas ce que Marx avait sous les yeux en 1857, mais ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Tout ce qu'il écrit à ce moment-là, comme bien souvent d'ailleurs chez lui, comme dans le Manifeste communiste et dans bien d'autres endroits, décrit beaucoup plus ce qui va venir et beaucoup plus tard que Marx ne le pense, parce que de ce point de vue, il commet les mêmes erreurs que tous les grands révolutionnaires, c'est-à-dire qu'il voit comme un développement rapide et immédiat, ce qui exigera quand même plusieurs, jusqu'à un siècle ou davantage pour se réaliser complètement. Et précisément pour cette raison, ce qu'il écrit là est beaucoup plus actuel que ça n'était à ce moment-là. Or, le processus selon lequel la science tend à devenir force productive immédiate, ce qui, dit-il, a pour effet dans le cadre du régime capitaliste du profit de se retourner contre les travailleurs et d'aggraver considérablement leurs conditions d'exploitation ou même de les chasser du processus de production, eh bien, c'est sous un autre langage la transformation des forces productives en forces destructives. Ce n'est pas une formule magique qu'il avait besoin de réemployer. Il explique la même chose sous d'autres formes, en particulier, y compris dans le livre 3, dans tous les développements sur la tendance à la baisse du taux de profit, il explique beaucoup mieux dans le manuscrit de 1857, où il y a toute une série de développements qu'il n'a pas eu la possibilité de reprendre ensuite dans la rédaction finale. Il faut d'ailleurs ajouter une chose, c'est que l'ensemble des manuscrits du Capital, nous ne les possédons pas. Nous possédons actuellement publié à peu près la moitié des manuscrits qui dorment dans un certain nombre d'instituts, sans même qu'on puisse d'ailleurs savoir s'ils n'en ont pas perdu une partie, ce qu'ils possèdent, etc. Seuls les gens qui sont admis à entrer à l'Institut Marx-Lénine de Moscou, à celui de Berlin-Est, le savent exactement et n'ont pas la possibilité de le dire. Alors de temps en temps, d'ailleurs, ils publient une citation d'un texte que personne ne connaît sauf eux, en donnant la référence à leurs archives de mémoire. On ne les connaît pas. On sait seulement le nombre de rédactions successives qu'il y a eu, et on sait ce qui en a été extrait par Engels. On sait qu'en plus, le manuscrit de 57 a été publié sous le nom de Grundrisse en allemand et de Fondement de la critique en français. C'est un texte difficile mais passionnant. Difficile parce qu'évidemment, Marx n'écrivait pas pour l'extérieur mais pour lui-même, ce qui donne 10 paragraphes qui tiennent 5 pages de suite sans alinéa, des phrases gigantesques et en plus une traduction française défectueuse du type qu'il l'a faite, ce qui n'arrange pas les choses. Il avait en plus ses idées à lui, ce qui est toujours fâcheux. Quand on traduit Marx, il vaut mieux laisser à Marx ses idées, quitte à mettre après dans un autre livre les idées personnelles qu'on a là-dessus. Il vaut mieux le lire en allemand, mais même en allemand c'est très difficile, mais il y a toute une série de choses que là-dedans il n'a pas reprises. Qu'il n'a pas reprises, il contient, par exemple sur la théorie de l'argent, il ne l'a jamais reprise nulle part. Sur la théorie de la monnaie, il n'a pas eu le temps de le développer, ce n'était pas le but principal du livre 1 du Capital, où il se contente de résumer le problème en une section. Il y a toute une série de choses qui sont utiles de ce point de vue. Il y a aussi toute la partie sur l'histoire de la théorie économique, qui devait constituer le livre 4 du Capital, qui a été publié comme livre 4 en allemand, qui n'existe en français que dans une édition absolument déplorable, et défectueuse, et d'ailleurs épuisée. Et il y a toute une série d'éléments sur travail productif, travail improductif, qui se rattachent à ce problème, sans être exactement la même chose, et que... ici, nous n'avons d'ailleurs qu'en partie, puisque le manuscrit qui a été publié, on sait qu'il comporte 200 feuillets, 200 grandes feuilles, dont à peu près une centaine a été publiée. Il y a toutes sortes d'autres choses qui n'y sont pas. Alors Marx n'a pas donc repris la formule exacte, force productive, force destructive, qui se trouvait dans l'idéologie allemande, mais il n'a pas non plus expliqué le contraire et que c'était faux. Ce qu'il ignorait en économie à ce moment-là, Engels et lui, c'était essentiellement ce que Marx a élaboré après 1848 et qui sera la base du livre 1 du Capital, c'est-à-dire la théorie générale de la plus-value, dégagée de la théorie du profit sous ses différentes formes, la théorie de la rente foncière qu'il exposera ensuite dans le livre 3, et la théorie donc de la vente et de l'achat de la force de travail, et non plus seulement du travail, comme il s'exprime encore défectueusement avant 1848, avec l'ensemble des conséquences que cela a pour la lutte de classe du prolétariat, pour les révolutions syndicales, etc. Ça n'est pas par contre le cadre historique général de la théorie du capitalisme qu'il a modifié. De ce point de vue, ça c'était pas de l'économie, si l'on veut, c'était les fondements même du matérialisme historique, ça n'était pas l'analyse détaillée, microscopique en quelque sorte, de l'économie capitaliste, c'était autre chose, c'était le point de départ pour aborder cela. Le même Engels qui fait cette remarque dont tu parlais tout à l'heure, c'est après la mort de Marx, il fouille dans les manuscrits dont il a hérité, il retrouve le vieux manuscrit qui avait été abandonné en 1846, à la célèbre critique rongeuse des souris, laquelle a effectivement fait perdre quelques chapitres de l'économie, de l'idéologie allemande, mais somme toute, les souris se sont montrées modérées, beaucoup plus modérées d'ailleurs que les sociodémocrates qui n'ont pas publié ce texte. Après en avoir hérité, vous savez qu'il n'a été édité qu'en 1932, leur critique était beaucoup plus destructrice par rapport à la pensée de Marx que celle des souris. Mais donc Engels reprend le vieux manuscrit et il dit « J'ai été frappé en relisant de voir à quel point nous étions ignorants en économie politique. » Mais il ne dit pas que par contre l'exposé du matérialisme historique, le premier grand exposé du matérialisme historique qui constitue la première partie de l'idéologie allemande intitulée Feuerbach, et si vous le comparez ensuite au manifeste communiste, vous verrez que le manifeste communiste reprend ses développements en les résumant et en leur donnant une forme agitative, mais que c'est vraiment la même chose, quoi. C'est ce qui a servi. C'était le programme de la construction d'une organisation, cette partie-là, Feuerbach. Partie d'ailleurs qui a été rédigée en dernier et inachevée, parce que précisément elle présentait beaucoup plus de difficultés que le reste de l'idéologie allemande, c'est-à-dire la critique du socialisme moral ou philosophique et la critique de l'individualisme anarchisant de Stirner, qui constitue le plus gros morceau du point de vue du nombre de pages, mais qui présentait finalement moins de difficultés parce que c'est un prolongement de ce qu'ils avaient déjà écrit dans la Sainte Famille, de ce point de vue. C'est simplement un développement plus poussé, qui est d'ailleurs intéressant du point de vue des anarchistes individualistes encore aujourd'hui, et ils ont réédité le livre de Stirner, L'unique et sa propriété, qui est critiqué là-dedans. C'est de beaucoup plus long, mais ça a été écrit avant. Et la première partie, Feuerbach, c'est là où se trouve entre autres cette affaire de force destructive, c'est l'exposé du matérialisme historique. Ça n'est pas l'analyse de l'économie capitaliste, ça n'est pas une première rédaction du Capital. De ce point de vue, ça ne cherchait même pas à l'être. Alors ce qu'Engels dit là ne prouve rien du tout sur les questions des forces destructives. Qu'Engels n'y soit pas revenu en 1880 ou 90, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas le problème qui existait à ce moment-là pour le mouvement ouvrier. Et que lui, il pensait qu'il n'avait nullement pensé, ni lui, ni Marx, ni personne, que la crise historique du capitalisme s'étendrait sur presque un siècle, du fait que la marche à la révolution prolétarienne serait infiniment plus complexe que ni lui, ni Lénine, ni même Trotsky d'ailleurs, ne l'avait finalement prévu. L'histoire est toujours beaucoup plus complexe comme le dit Marx dans une de ses lettres, si les hasards ne jouaient pas un rôle en histoire, ce serait vraiment, l'histoire serait vraiment quelque chose de prodigieusement ennuyeux, je ne sais plus ce qu'il dit. Et ce ne serait plus l'histoire. L'histoire réelle est nécessairement complexe, chaotique, infiniment plus compliquée. Le passage de la féodalité au capitalisme s'est étendu finalement du XIIe siècle jusqu'au XIXe, à travers des progrès considérables, des tentatives révolutionnaires avortées, des réactions noires s'étendant sur des siècles entiers, comme la contre-réforme catholique triomphant sur le continent à la fin du XVIe siècle, alors qu'au début du XVIe siècle, tout le monde avait le sentiment que ce siècle ne se terminerait pas sans que une nouvelle société ait triomphé, beaucoup plus civilisé et beaucoup plus cultivé que le passé. Et puis, à la fin du XVIe siècle, la réaction catholique va l'emporter dans toute l'Europe pour deux siècles, jusqu'à la Révolution française. C'est seulement en Angleterre que subsistera un îlot de progrès, d'ailleurs très relatif. Si vous regardez cette histoire du passé, bien sûr, ça a été beaucoup plus complexe aussi pour la Révolution prolétarienne. Personne ne peut s'en surprendre, et Marx n'en aurait été surpris moins que personne. S'il revenait aujourd'hui, il ne serait pas du tout étonné que ça ne soit pas passé exactement comme il pouvait l'imaginer. D'ailleurs, il se gardait bien de faire des pronostics datés et précis. Vous chercherez chez lui, vous ne le trouverez jamais. Il savait que ce n'était pas comme ça que ça se passait. De ce fait, des problèmes qui avaient été relevés en passant par Marx, élaborant sa théorie fondamentale, se sont trouvés prendre une place déterminante, alors que personne, il n'y avait aucune raison. Au moment où effectivement le capitalisme développait impétueusement les forces productives, au moment où la possibilité de la révolution était limitée aux périodes de crise générale, comme celle de 1848 ou comme celle qui précédera la guerre de 70 et la Commune, par exemple, à ce moment-là, ce problème n'était pas du tout central. Et en même temps, d'ailleurs, le socialisme était encore seulement possible et non pas nécessaire. Il devenait seulement nécessaire à partir du moment où les crises périodiques se concentrent en une crise historique générale avec l'ensemble des conséquences, avec le fait que le capitalisme devient la réaction sur toute la ligne. Quand Lénine dit ça, ça veut dire que le capitalisme dans la phase antérieure n'était pas la réaction sur toute la ligne, bien entendu. C'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, même si, encore une fois, il faut ajouter, supposons même que Marx n'en ait pas parlé, alors quel est le problème réel? Quel est le problème réel? Peut-on vraiment dire que l'emploi des machines est indifférent? Peut-on vraiment dire que le fait que le moteur du fonctionnement de l'économie capitaliste dans la dernière phase soit les armements, et que même la dose actuelle d'armement ne suffit plus, c'est une question secondaire? Ou est-ce que c'est la question décisive pour l'appréciation du capitalisme? Est-ce que dans ce cas, l'ensemble de l'analyse... Parce qu'évidemment, Mandel fait des analyses complètement éclectiques. Tantôt, il explique que le capitalisme a inventé de nouvelles méthodes financières pour résoudre ses problèmes, les techniques néo-keynésiennes, les techniques inflationnistes, etc., indépendamment tout à fait du fait que cette inflation, c'est-à-dire cette injection de crédit qui semble de la monnaie de singe, a pour but de financer les armements. Et puis alors, sans ligne plus loin, parce que c'est pas Weber, lui, Mandel, il est pas fou, et c'est quand même un autre niveau mental. Weber, c'est le niveau le plus bas. Si vous lisez son livre, vraiment, il y a des moments où on ne sait même pas. Enfin, je sais pas, on ne sait même pas quoi répondre, parce qu'on ne sait même pas. Enfin, les bras vous en tombent de voir écrire des choses, par exemple, comme le fait que si nous soutenons le port de l'Aura, c'est parce que la Ligue communiste avait collecté 5 millions pour Moscoso. Quand vous avez lu ça, je ne sais pas, moi je ne sais vraiment pas quoi répondre à ça, parce que imaginez qu'il y ait des gens qui fassent de la politique, je ne sais pas si eux font de la politique comme ça, que nous soutiendrions l'Aura parce qu'ils ont collecté 5 millions pour Moscoso et que nous voulons montrer à Ram et nous aussi, certainement nous pouvons collecter même plus de 5 millions, mais je ne crois pas que nous fondions notre politique sur des choses de genre, enfin je ne crois pas que même, je ne sais pas, enfin c'est pas possible ça, Mandel quand même il n'écrit pas des choses comme ça, quoi, juste. Mais alors Mandel, lui, il dit d'une part ce que je viens de dire, et puis sans ligne plus loin, il dit les armements extrêmement importants, facteurs fondamentaux, etc. C'est-à-dire que vous avez à boire et à manger, comme toujours chez Mandel. Mais il y a quelque chose de plus drôle. Ceux d'entre vous qui savent ce que c'est que les schémas de reproduction utilisés par Marx dans le livre 2 du Capital, dans lesquels il divise l'économie en deux branches, il s'agit de montrer comment le cycle du capital peut s'accomplir. c'est-à-dire comment les marchandises, une fois produites, peuvent être vendues et le cycle recommencer. Alors, pour faire cette analyse, il divise l'économie en deux secteurs. Le secteur de production des machines, des moyens de production, parce que le produit de l'activité de ce secteur ne peut être vendu qu'à des capitalistes. Seuls les capitalistes vont acheter les machines, évidemment. C'est le secteur 1. Et le secteur 2, c'est la production de moyens de consommation, lesquels seront vendus aux travailleurs, à toute la population et une fraction aux capitalistes, y compris des produits de consommation de luxe, mais tout cela rentre dans le secteur 2. Alors il établit toutes sortes de schémas permettant la reproduction simple, c'est-à-dire la même quantité, ou la reproduction élargie, c'est-à-dire avec une accumulation, une partie de la plus-value étant réinvestie. Bon, c'est une partie d'ailleurs inachevée, ou en plus de ça, comme il employait uniquement des exemples numériques et non pas des lettres, il a fait un tas de fautes de calcul, c'est très drôle. Même Engels ne les a pas toutes corrigées en le publiant, enfin des fautes d'arithmétique. Mais l'intérêt théorique de l'affaire est grand, et il y a eu d'innombrables discussions à ce sujet. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans les exposés d'économie, j'espère le pouvoir faire parce que c'est important. Bon, ben, si vous ouvrez un ouvrage respectable, à savoir le traité d'économie marxiste de Mandel, publié en 1962, c'est-à-dire à une époque où nous n'avions pas encore introduit, comme le dit Weber, Lambert n'avait pas pensé aux forces destructives, ni les autres non plus, si bien que personne n'en parlait. Alors donc, à cette époque, Mandel dit la chose suivante, qui mériterait d'être discutée, mais qui est sérieuse. Il dit, si on veut étudier cette même question aujourd'hui, il faut introduire un troisième secteur de la production de biens de destruction. D'elle qui parle. En effet, les armements ne sont vendus ni à des capitalistes comme les machines, ni aux consommateurs, ils sont vendus uniquement à l'État, ou aux États en général, donc ça pose un problème de modifier les schémas de ce point de vue et d'ajouter un troisième secteur. Il aboutit d'ailleurs à la conclusion que l'existence de ce troisième secteur ne peut manquer d'aboutir à une régression générale, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, trop schématique ce qu'il fait là-dedans, enfin, vous pouvez le regarder. En tout cas, disons que l'idée n'en était pas venue à Lambert, mais qu'elle en était venue à Mandel sous la forme, s'il y a des moyens de destruction, des biens, il emploie le terme bien. Alors, il y a biens de production, les machines, le secteur 1, biens de consommation, Marx disait moyens de consommation, ça n'a pas beaucoup d'importance, biens de consommation, le secteur 2, et les biens de destruction qui constituent un secteur 3 qui joue un rôle particulier dans la répartition, en quoi il n'a pas tort. Maintenant, il faudrait voir exactement les tenants et aboutissants, mais ça, ce n'est pas la discussion que je vais avoir maintenant. Le moins qu'on puisse dire est que pour un brave homme de la Ligue, ça montre que cette idée n'était pas tellement aberrante, puisqu'elle a même effleuré un instant Mandel, même s'il n'a pas tiré toutes les conclusions. Il est évident que s'il y a des biens de destruction, on pourrait à la rigueur parler de force destructive sans commettre une hérésie majeure ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça montre l'absurdité de ce genre de discussion sur ce que Marx a dit sans vouloir examiner en même temps ce que ça signifie aujourd'hui. Effectivement, Marx l'a dit, c'est une bonne chose pour nous. Mais ce qui est important quand même, c'est d'analyser ce que ça signifie aujourd'hui. 20% du produit national de tous les grands pays du monde employé à la destruction. Et le fait que si ça s'arrêtait, il y aurait immédiatement plus de chômeurs qu'en 1929 aux États-Unis. Ça a quand même une certaine importance pour l'analyse historique de la lutte des classes aujourd'hui. Ou alors il s'agit simplement de les biens de production, etc., deviennent encore une fois des entités métaphysiques au ciel pendant que l'histoire se déroule sur la terre, et ces entités qui sont au ciel tirent les ficelles de l'histoire qui n'est plus faite par les hommes. La conception du matérialisme historique, c'est qu'il y a une histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'un côté l'histoire des forces productives, de l'autre côté l'histoire des idées, du troisième côté l'histoire des événements politiques et je ne sais quoi. Il y a une seule histoire de l'humanité dans laquelle tous ces éléments s'intègrent avec une certaine structuration spécifique dans laquelle naturellement les forces productives et les rapports de production sont à la base de tout le reste, mais ne sont que des éléments, et finalement rapports de production, ce sont des rapports vécus par les hommes, des rapports entre hommes, et non pas des choses, des objets matériels, y compris la bombe thermonucléaire, fort heureusement d'ailleurs, elle est mue par des hommes, sinon nous serions sûrs de la recevoir. Ce qui nous permet d'espérer que ce sera évité à l'humanité, c'est que finalement ce sont des hommes qui, y compris, poussent les boutons, et que la révolution socialiste elle touche ces hommes-là aussi, sinon tout serait perdu. Si c'était au ciel où les dieux les manipulent, il n'y aurait pas grand-chose de bon à attendre de ces dieux. Jamais d'ailleurs il n'y a grand-chose à en attendre.
En même temps, il se gardait bien de poser les questions qu'il estimait que le mouvement n'était pas mûr pour résoudre. Il n'a pas exigé en septembre 1864 que le mouvement admette le manifeste communiste, parce que l'immense majorité des gens qui étaient là l'auraient rejeté immédiatement. Bon, alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il omettait de donner sa propre position. La situation historique n'est pas exactement la même, parce que nous avons affaire à un mouvement ouvrier scissionné par les appareils bourgeois. Nous reviendrons là-dessus. Nous n'avons plus affaire seulement à des tendances réformistes ou anarchistes légitimes. Nous avons affaire à des appareils constitués sur la base d'intérêts de couches sociales spécifiques liées à la bourgeoisie et opposées à la classe ouvrière. Pour cette raison, le même objectif que Marx avait poursuivi en unifiant toutes les tendances dans la première internationale et en luttant contre la scission bakouniste jusqu'au bout, pour cette raison, Lénine a dû se fixer l'objectif en 1914 de réaliser le même objectif par la scission, parce qu'il faut rompre avec les appareils bourgeois précisément pour réunifier la classe ouvrière sur son propre terrain. C'était l'objectif de l'Internationale communiste. L'Internationale communiste ne se concevait pas comme le parti de ceux qui sont tous d'accord avec l'ensemble du marxisme. Lorsque la CNT espagnole est entrée en négociation avec les dirigeants du parti bolchévique et de l'Internationale communiste en 1920, Lénine et Trotsky ont dit aux anarchistes espagnols: vous pouvez entrer tout de suite. Vous êtes pour le pouvoir des soviets, ils l'étaient, pour le pouvoir des conseils. Bon, dans ce cas, nous discuterons ensuite qui avait raison, de Bakounine ou de Marx. Bien sûr, nous pensons que c'était Marx. Et si ça ne s'est pas fait, c'est parce que les anarchistes espagnols ont reculé. Ce n'est pas parce que Lénine et Trotsky ont opposé un barrage. On pourrait citer 1000 exemples de gens. La conception était exactement la même. La seule différence, elle est importante, mais elle est très importante, mais elle est moins décisive que ce que je viens de dire. C'est qu'on ne pouvait plus réunifier le mouvement ouvrier sur une base de classe qu'en rompant avec l'appareil bourgeois de la social-démocratie qui était passé entièrement dans le camp de l'ordre bourgeois, dans le camp ennemi. Ça, c'était en effet une différence essentielle, mais qui n'empêche que l'international communiste n'était pas... Mais vous vous figurez que nous unifierons un jour des centaines de milliers, des millions d'hommes qui reconnaîtront tous dans son intégralité le programme marxiste. Mais l'histoire ne crée pas de choses de ce genre. La classe ouvrière, elle sort du capitalisme tel que le capitalisme l'a fait. Ce n'est pas une classe ouvrière idéale. Bien entendu, si les marxistes ne sont pas au sein de cette organisation pour l'influencer de façon décisive et de préférence pour la diriger, alors effectivement elle échouera et elle dégénérera. Ou même elle ne se constituera pas plus exactement aujourd'hui. Mais notre méthode, c'est celle-là. C'est l'alliance ouvrière, c'est la construction de n'importe quelle... La conférence du 4 et 5 décembre, c'est cela, et nous n'exigerons pas que ceux qui vont élire des délégués à cette conférence aient reconnu ni la dégénérescence de l'État ouvrier russe tel que l'a expliqué Trotsky, ni la révolution permanente, ni beaucoup d'autres choses. Nous exigerons qu'ils soient prêts à combattre de façon organisée avec nous pour constituer une force politique qui combatte pour le gouvernement des organisations ouvrières, pour que les organisations ouvrières rompent avec la bourgeoisie, pour le front unique de classe. Si le front unique a pris la forme en 1921, après le troisième congrès de l'Internationale communiste, pas au troisième congrès même, c'était en germe dans les décisions du troisième congrès, mais le mot d'ordre même, le mot même de front unique n'a été donné qu'un peu après. Si elle a pris cette forme du front unique des communistes avec les socialistes, de propositions adressées par les partis communistes aux partis socialistes pour réaliser l'unité d'action dans les intérêts de la classe ouvrière, c'est parce que dans les conditions historiques où cela se posait, l'international communiste avait dû se constituer en scissionnant avec les appareils bourgeois, et que ces appareils bourgeois, du fait de circonstances historiques qu'il faudrait expliquer, ce qui serait refaire toute l'histoire de cette époque, en particulier des conditions dans lesquelles s'était faite la rupture en Allemagne. Vous pouvez étudier ça dans les textes de Brouet sur l'Allemagne, qu'on avait publié pour études marxistes. À cause de ces conditions historiques, une fraction décisive ou importante des masses ouvrières, en particulier en Allemagne la majorité, restait sous le contrôle de l'appareil bourgeois de la social-démocratie et qu'il n'était pas possible d'attendre simplement qu'elle vienne frapper à la porte du Parti communiste en disant « Vous avez raison ». Cependant que la lutte des classes se développait et exigeait que dans l'intérêt de cette lutte de classes, dans l'intérêt des aspirations historiques et des nécessités du mouvement qui exigeait la lutte pour le pouvoir, que l'accord soit proposé et qu'il soit proposé naturellement aussi bien aux dirigeants qu'à la base, puisque on ne pouvait influencer la base que si on sommait les dirigeants de rassembler la classe ouvrière entière face à ses ennemis. Cette forme particulière prise par la stratégie du Front unique n'est pas exactement celle que nous avons aujourd'hui. Nous ne demandons pas à Georges Marchais de se mettre d'accord avec nous pour réaliser un pacte de Front unique. Nous ne demandons pas ça parce que ce serait croire que nous sommes le parti révolutionnaire dirigeant déjà des secteurs décisifs de la classe. Et nous savons que ce n'est pas vrai, c'est une illusion qui nous a coûté fort cher que de le croire ou de faire comme si nous le croyions. Ça prend une forme différente. De même en 1921 différente, de même dans la première internationale différente, mais dans le fond, c'est la stratégie même qui s'exprime dans la phrase qu'on a citée du manifeste communiste. C'est cette méthode même de construction du parti de classe qui est la nôtre, et c'est dans ce sens que c'est le parti de classe, bien que ce parti de classe ne puisse se constituer en tant que parti de classe qu'avec le programme de la quatrième internationale, et au moins en son sein, une fraction l'influençant de façon décisive, rassemblés sur la base de ce programme. Alors comment ça se passera? Quelle forme d'organisation y aura? Le savoir, ce serait vous raconter l'histoire des 50 prochaines années, des 15 prochaines années, pour faire plaisir à certains camarades, si vous préférez, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Même pour les 15 prochaines années, je ne peux pas vous raconter cette histoire, et entre autres raisons, parce qu'elle va se faire entre autres par nous. Et par conséquent, elle dépend de nous et n'est donc pas écrite nulle part à l'avance, ni dans l'esprit de Dieu, ni quelque part dans le livre du destin. Nous allons la faire. Mais nous allons la faire seulement si nous sommes capables de comprendre cette méthode de construction du parti qui consiste à comprendre qu'elle participe elle-même de la transition et non pas d'une sommation adressée aux masses par les révolutionnaires ou d'une attente passive des révolutionnaires que les masses comprennent.